Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme d'habitude, nous agitons pour que le micro fonctionne et surtout la visio. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation que nous faisons conjointement Minerve avec surtout Sinopia, avec qui nous avons un partenariat très actif et nous avons décidé de changer un petit peu nos thèmes de prédilection pour attaquer les sujets de société. Et quelle société que la nôtre, c'est intéressante. Et nous avons souhaité vous proposer une série de conférences qui va traiter de nos institutions, des gens qui la font fonctionner et les font fonctionner, et tracer un peu des pistes d'évolution raisonnable, on pense, et si possible, assez porteuses d'avenir. Donc, je ne vais pas abuser de ma position de puissance accueillante pour donner tout de suite la parole à Sinopia et qui va vous présenter le panel qu'ils ont préparé pour cette première conférence sur la Ve République. Merci.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à l'association Minerve pour ce partenariat dont nous sommes très contents avec Sinopia. Très contents d'être dans cette belle institution pour venir parler de gouvernance, qui est le sujet de prédilection de Sinopia. Alors, comme l'a dit Général, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle de quatre conférences. Donc, cette première conférence aujourd'hui va traiter des institutions, réforme de l'État, réforme des institutions. Faut-il réformer? Pourquoi et surtout comment? La seconde conférence aura lieu le 19 janvier. Et elle portera sur la pratique démocratique aujourd'hui qui évolue. Comment est-ce qu'on ravive la culture démocratique sans perdre en efficacité de nos institutions? Le 23 mars, on dédiera notre troisième conférence à la question de la formation des élites et du casting en politique. Alors, c'est volontairement qu'on emploie ce terme de casting parce qu'on voit bien que depuis quelques années, la question du personnel politique se pose aujourd'hui et a un impact sur nos institutions et sur le sentiment de défiance qu'on voit aujourd'hui dans la société. Et enfin, la quatrième conférence qui clôturera ce cycle sur la gouvernance aura lieu le 11 mai et sera consacrée à la gouvernance de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on aura juste fêté le 9 mai une nouvelle journée de l'Europe et qu'étant donné tous les défis auxquels fait face l'Union européenne, eh bien, la question de sa gouvernance se pose plus que jamais. Alors, très rapidement, avant de passer la parole aux trois intervenants qui sont là, petite introduction rapide de cette première conférence sur la gouvernance de nos institutions. Pourquoi elle nous paraît importante? Déjà parce que Sinopia, en tant que think tank, travaille sur ces questions depuis plus de 10 ans maintenant. Et aussi, peut-être surtout, parce que c'est un sujet qui fait écho à beaucoup de monde aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus fracturée. Dans une société où toutes les institutions font face à une grande défiance de la part des citoyens, il n'y a qu'à regarder les sondages hein, qui arrivent chaque jour, ça ne s'améliore pas. Ça ne s'améliore pas malgré le petit espoir, on va dire, en 2017, qui a pu avoir lieu avec ce qu'on a appelé une vague de dégagisme politique, ni droite ni gauche, et un nouveau mouvement qui se disait citoyen, porteur d'une nouvelle méthode de gouvernance et qui, malheureusement, a fini par décevoir, peut-être, les promesses étaient peut-être trop grandes. Et en tout cas, les institutions, elles, n'ont pas véritablement changé. Et la question de la confiance politique se pose encore plus aujourd'hui qu'en 2017. D'autant que, donc, ça n'aura échappé à personne, on est dans un contexte de crise sur crise, crise des gilets jaunes, crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique. Quelle sera la prochaine? On n'en sait rien pour l'instant, mais on peut imaginer qu'il y en aura une autre très prochainement. C'est un nouveau contexte, un contexte de crise qui devient finalement une nouvelle normalité. Et dans cette nouvelle normalité, comment eh bien, nos institutions peuvent évoluer et répondre aux attentes des citoyens, des populations. Donc, pour répondre à toutes ces questions très ambitieuses, un panel de trois intervenants. Alexandre Malafaye, qui est le président fondateur du think tank Sinopia, qui a fêté ses 10 ans, pas Alexandre, mais le think tank, le 28 mars dernier, et qui va nous présenter bien évidemment les travaux de Sinopia, mais aussi sa vision de la gouvernance aujourd'hui, des problématiques, des grands enjeux. Au bout, nous avons Bruno Catala, qui est magistrat honoraire, également membre de Sinopia, et je le laisserai, s'il le souhaite, présenter quelques aspects de sa carrière. Et enfin, Vincent Leroux, au milieu de ce panel, qui est l'ancien directeur de cabinet du président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et qui a également été collaborateur de deux personnalités politiques de premier plan, Jacques Chirac, Alain Juppé, et qui a d'autres cordes à son arc, mais je j'irai plus en détail lorsque je lui donnerai la parole. On va commencer par Alexandre Malraux, une question pour vous. Donc, ces dernières années, on a vu que la France a été bouleversée par tout un tas de crises qui ont justement ébranlé les fondements même de nos institutions et leur robustesse, d'une certaine manière. En tout cas, elles ont interrogé la qualité et l'efficacité de ces institutions. Ces crises, c'est quoi ? On pense aux attentats terroristes en 2015, au mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, on arrive à une crise du pouvoir d'achat qui fait craindre une nouvelle crise sociale d'une grande ampleur. Et tout ça, on va dire, dans un climat de montée des extrêmes des deux côtés de l'échiquier politique et une reconfiguration assez hétéroclite de l'Assemblée nationale, une première depuis un très long moment. Première question assez généraliste, mais c'est volontaire pour poser le débat. Quel bilan, d'après vous, est-ce qu'on peut tirer, quels enseignements principaux est-ce qu'on peut tirer de ces 5-7 dernières années assez chaotiques en matière de gouvernance? Est-ce qu'il n'y a vraiment que du négatif à en retirer?
Bonne question, évidemment, sensible. D'abord, merci à Minerve, au général Var, ses équipes, parce qu'on est ravis de partager et d'amorcer ce cycle de conférences avec vous. C'est très sympa et c'est très stimulant. Nous, ça nous donne l'occasion de prolonger nos réflexions dans un Sénat qu'on aime bien, celui de l'école militaire, dans lequel tous ceux qui, entre autres, comme moi, ont fait l'IHEDN, se sentent par nature bien. C'est difficile, la question que vous posez, Joséphine, parce que évidemment, il y a plein de réponses à apporter. Tout à l'heure, j'ai posé la question, d'ailleurs, au garçon de café qui m'apportait mon thé à la terrasse. Et ce qu'il me dit, vous faites quoi ce soir? J'ai une conférence, ah bon, sur quoi? Et je lui donne le thème de la soirée, faut-il réformer les institutions? Et spontanément, le garçon de café me dit, de toute façon, ça ne marche pas. Ils font tous la même école, ils vivent tous à Paris, ils n'ont connu que ça, comment voulez-vous que ça marche? Puis il a développé un peu son propos. Il trouvait que c'était intéressant comme point, comme les chauffeurs de taxi, souvent ils disent des choses qui sont très intéressantes. Alors, avant de revenir dans le détail de la question de David, moi je vous dire partager une conviction. C'est très ancien que je pense qu'effectivement les institutions mériteraient d'être dépoussiérées, voire transformées. Alors, j'avais écrit en son temps, ça remonte à 85, un petit essai qui s'appelait La Sixième République. Alors, non pas pour déboulonner le chef de l'État de sa position de piédestal et remettre en cause son système électoral et ce mode de scrutin auquel les Français sont attachés, mais parce que déjà j'avais l'intuition en tant que jeune homme que ça marchait pas bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Sinopia en 2012, parce qu'il me semblait effectivement que l'art et la manière dont nous étions gouvernés méritaient d'être dépoussiérés. Alors, sur les institutions, et pour aller plus loin dans la question que vous posez, un point important, il faut les replacer dans ce que nous, on appelle la puissance publique. Elles font partie d'un tout. Il n'y a pas les institutions et le reste. Il y a les institutions qui vont faire fonctionner, déterminer un certain nombre de règles du jeu qui vont faire fonctionner le système. Il y a la démocratie, qui est un pilier tout à fait parallèle et qu'on va pouvoir effectivement évoquer et dont les fondements, bien sûr, de mise en œuvre procèdent de la Constitution. Mais la démocratie, elle aussi, mériterait qu'on la fasse vivre et évoluer. Et après, vous avez effectivement l'État, qui est la grande machinerie qui va mettre en œuvre les choses et qui lui aussi, ce cher État, aurait besoin de peut-être de se remettre un peu en question ou en tout cas sur lequel il faudrait travailler. Et ça n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi souvent une question de gouvernance. Alors les institutions, puisque c'est le sujet de ce soir, j'ai souvent entendu quelque chose qui m'a toujours fait bondir. On dit mais les institutions de la Ve République, elles sont solides et donc il faut pas y toucher parce que c'est grâce à elles qu'on traverse le temps et que on est toujours là. D'accord. Alors, elles ont été conçues en 1958, dans un contexte que la plupart d'entre vous connaissent très bien, donc j'y reviendrai pas. Elles ont un peu évolué, ou pas mal évolué en somme d'eux. On a tenté de les refaire évoluer en Sciences 9, et puis depuis, à part quelques aménagements à la marge, dont un qui n'est pas le moindre, c'est-à-dire le passage au quinquennat, qui a été peut-être pensé vite et pensé pas bien, dont on voit aujourd'hui les effets pervers, puisqu'en fait, on oublie très souvent de modéliser, hein, simuler, modéliser, se projeter quand on prend des décisions, mais ça ne concerne pas les institutions. Ça, c'est aussi un de nos bons travers. On a une belle idéologie, on la plaque sur la réalité, puis on voit ce que ça fait. On dit, ah, bah, tiens, ça ne fait pas comme on avait prévu. Voilà, donc là, en l'occurrence, ça n'a pas fait comme on avait prévu, c'est dommage. Mais en tout cas, ces institutions, oui, elles sont peut-être solides. Moi, je crois qu'elles sont surtout rigides. Et on a oublié depuis de nombreuses années que bah, des institutions, quand elles sont aussi sophistiquées que les nôtres, à un moment donné, il faut les faire évoluer, il faut les remettre au goût du jour, il faut les adapter, il faut partir du fait qu'aussi les populations ont changé et qu'on ne peut pas oublier les populations. On ne gouverne pas sans les populations, on ne gouverne pas à coups d'oucase en démocratie. On doit se poser la question du comment on fait. Et le comment on fait aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir avec le comment on faisait il y a 30 ou 40 ans. Il y a 40 ans, les gens étaient peut-être moins informés, sans doute, hein, parce qu'il y avait moins de médias. Peut-être ils étaient davantage confiants aussi, parce que finalement, on venait d'une époque où il y avait bien sûr des luttes. Hein. La France n'était pas archipélisée comme elle s'est archipélisée, comme le décrit si bien Jérôme Fourquet, mais il y avait peut-être encore une forme de confiance et il y avait un mot qui marchait bien. Il y avait un mot qui pouvait peut-être justifier que, bon, bah, on n'était pas d'accord, mais c'était comme ça, quoi. C'était le mot consentement. Et le mot consentement, c'est un mot magique en démocratie. C'est un mot qui, finalement, c'est celui qu'on retrouve dans le sport. C'est celui qu'on retrouve à peu près normalement partout. C'est-à-dire qu'on accepte les règles du jeu et on prend le résultat des règles du jeu. Voilà. Donc, on joue la partie et en démocratie, bah, le consentement, c'est je vote et j'accepte le résultat des élections. Et bah, il y a des décisions qui sont bonnes, des décisions qui sont bonnes. Mais globalement, je fais mon équilibre de ça parce que le système, globalement, me permet de. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que le consentement est battu en brèche. On voit bien qu'il y a une vraie crise démocratique, une vraie crise institutionnelle, parce que la fabrication du consentement est en question. Et que les gens, aujourd'hui, n'ont pas le même rapport à l'autorité politique qu'ils n'avaient. Il y a un climat de défiance qui s'est installé. Et ça, c'est un événement majeur de ces, on va dire, de ces 20 dernières années. Ce qui était vrai il y a 25 ans, en matière de défiance, sur, bien sûr, le fait qu'il y avait toujours une partie de la population qui était en ça s'est pratiquement décuplé en 20 ans. Voilà, le chiffre est un peu fort. Mais aujourd'hui, on est à des niveaux, quand nous, on est partenaire du CEVIPOF, dans le cadre du baromètre annuel qu'ils font sur les Français et la confiance dans la vie politique, c'est la vie pour, très sincèrement, quand on voit depuis 13 ans les indicateurs du CEVIPOF se dégrader, il y aurait de quoi donner à nos chers dirigeants l'envie de regarder plus près et pourquoi cette déconnexion de plus en plus importante entre la tête et la base. Et ça, c'est un sujet absolument majeur. Enfin, tous ceux qui sont dans cette pièce qui ont fait un peu d'affaires militaires dans leur vie, il y en a quelques-uns qui les ont menés, entre vous, à très haut niveau. S'il y a des connexions entre la tête et les jambes, entre la tête et la base, ça ne peut pas marcher. Et en France, on a vraiment perdu cette réalité de la population de vue. On a un système qui ne s'est pas remis en question, comme je le disais. Et aujourd'hui, on a des institutions qui répondent plus aux attentes. Et alors après, au travers de ça, et la question de 2017, évidemment, elle a fait naître beaucoup d'espoir parce que on avait une classe politique jeune, nouvelle, pleine d'ambition qui est arrivée. Mais au passage, on a quand même perdu des choses. Le nouveau monde avec toutes ses promesses, qui était extrêmement passionnant à observer dans ses premières années, avait quand même comme caractéristique d'être jeune. Et on a beaucoup confondu les choses. D'ailleurs, on le voit avec la nouvelle Assemblée nationale. On a pensé qu'on pouvait se passer de l'expérience. On pensait qu'on pouvait faire des élus avec des gens qui n'avaient rien fait avant. Moi, j'ai une conviction inverse. Je pense que si on était dans une logique très exigeante, on devrait n'accepter, par exemple, à l'Assemblée nationale, que des gens dont on a validé qu'ils avaient la compétence pour aller à l'Assemblée. Alors après, c'est pas un grand oral, hein, parce que les grands euros, les gens sont trop bons pour ça, mais peut-être de dire on doit aller à l'Assemblée nationale après avoir être un élu local, régional, pour une qualification pour aller fabriquer la loi. D'ailleurs, les présidents de la République précédents, certains n'ont pas hésité à permettre à certains hommes politiques ou politiques tout court, aux députés, de devenir avocats, comme ça, c'est Sarkozy qui a fait ça. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il fallait bien, on imagine que celui qui est devenu, qui a fait 7 ou 10 ans député, il a une présupposée de compétence pour aller faire du droit. Bah, de la même manière, quand on va aller faire la loi, donc faire du droit, on devrait effectivement avoir un minimum de compétences. On voit bien que l'appauvrissement auquel on assiste aujourd'hui au niveau du débat public et en particulier à l'Assemblée nationale, trouve aussi ses sources dans le fait que, voilà, on n'a pas pris garde, on n'a pas pris soin de fabriquer effectivement des classes politiques qui sont au niveau. Et mais ça, c'est le produit d'une histoire où en fait les résultats n'ont pas été à la hauteur. Bien souvent, la perception des résultats. Après, il y a peut-être beaucoup de bonnes choses qui sont produites, on pourrait faire un inventaire précis si vous voulez. Mais il y a un certain nombre de très bonnes réformes qui ont été mises en œuvre. Mais la perception des inégalités, la perception des injustices, la perception de la pratique politique, la perception de l'absence d'exemplarité, la perception du comportement, souvent le fait du prince, tout ça a contribué malheureusement à troubler le jeu et rend de fait le système aujourd'hui, pour ceux qui nous gouvernent, très difficile pour véritablement passer à l'acte, transformer, et puis, je le redisais, fabriquer du consentement. Le consentement, c'est une clé. J'aime bien citer l'exemple du prélèvement à la source, qui est un exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué parce que j'ai entendu tous les débats à l'époque. J'ai souvent été sur des plateaux télé pour faire partie de ceux qui s'opposaient au prélèvement à la source. Je comprends très bien qu'il ait été mis en place pour des raisons techniques, les génies de Bercy qui sont effectivement, qui nous confirment que la France n'est pas un paradis fiscal, mais que c'est bien le paradis du fisc. Les génies de Bercy ont bien anticipé la crise des Gilets jaunes et on peut imaginer ce qui se serait passé avec les impôts si les Gilets jaunes avaient pu ne pas payer leurs impôts. Mais c'est très bien la plomberie fiscale qui a été installée. Mais cette plomberie fiscale, parce que c'est une véritable système de plomberie fiscale où la garantie de prélèvement de l'impôt est assurée parce qu'il y a toujours un tiers de confiance. Très bien, mais finalement, on n'est plus du tout associé aux décisions. Voilà. L'impôt, bien sûr, c'est un devoir de payer ses impôts, mais on avait l'acte, on avait le geste, on était associé à ça. Et c'est marrant parce qu'il y a 30 ans, on le faisait alors qu'on aurait pu être élevé, c'était pas réel. Aujourd'hui, on a envie d'être associé. Les gens ont envie, je le redis, c'est aussi un changement fondamental dans la manière dont les gens attendent à être gouvernés. Ils veulent être associés et petit à petit, on leur retire des pans de ce qu'ils pouvaient faire que finalement, ils avaient le sentiment que voilà, on les associait à la façon dont on gouverne. Et ça, je crois que cet oubli des gens et cette absence de fabrication du consentement, ça explique en grande partie l'état de défiance du pays. Alors, les 5 dernières années, elles ont fait qu'elles ont pu. C'est vrai qu'il n'a pas été facile pour ni Emmanuel Macron, ni ses deux présidents de gouvernement, ni celui de Madame Borne. C'est facile de faire face aux situations parce que c'est vrai qu'on est face à un enchaînement des crises. Alors, certaines ont été provoquées parce que le système n'a pas bien géré, pas bien écouté. On a là encore des fondamentaux, hein, écouter, respecter, associer, prendre en charge, essayer de guider, tout ça, c'est des fondamentaux que les militaires connaissent bien. Il y a peut-être quelques oublis dans la pratique politique, mais après, personne n'est parfait. Mais c'est vrai que la crise des Gilets jaunes aurait peut-être pu être évitée ou anticipée, ça c'est à peu près certain. Pour le reste, la crise sanitaire, si ça fait une peine, ne change rien à l'affaire. C'est compliqué de jouer dans ces conditions. Mais il n'empêche que si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas avec les gens, si on ne remet pas des institutions, après sur la partie opérationnelle, mais en étant plus en phase avec la réalité et avec les obligations de résultat, je crains qu'effectivement nos institutions si solides, qui sont en fait de mon point de vue très rigides, nous amène à un moment donné à un jour de rupture. Et ce jour-là, le jour où ça aura, il y a beaucoup de gens qui le souhaitent, hein, beaucoup de gens qui souhaitent qu'il y ait la rupture aujourd'hui en France, mais que la 6e République à laquelle je n'aspire pas, c'est un système de démocratie directe par lequel on arriverait après une phase de chaos. Ça, il faut pas le souhaiter. Donc oui, il faut réformer nos institutions et il faut s'y attaquer d'arrache-pied.
Et on verra très vite comment et par quel bout commencer. Mais avant, je voudrais rester un peu dans cette analyse, l'état des lieux, et interroger Bruno Catala. Bruno, en tant que magistrat honoraire, alors bien sûr, je vais vous interroger sur l'institution que vous connaissez mieux, et ça tombe bien parce que c'est aussi celle qui est le plus sensible à ce fameux déficit de confiance dont on parle depuis le début. Mais avant de parler de la justice, et étant donné votre expérience aussi bien en France qu'à l'international, j'aimerais vous poser à peu près la même question qu'Alexandre. Quel regard est-ce que vous portez sur la société française aujourd'hui, sur l'État, sur ses institutions, et comment est-ce que vous expliquez ce sentiment de défiance qui grandit et qui irrigue l'ensemble des pans de la société?
Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je ne me sens pas du tout légitime en réalité à parler de tout ça. Je suis un juge, j'ai été juge pendant toute ma vie, j'ai fait des différentes choses. Aller effectivement au tribunal pénal pour les Yougoslavie et à la Cour pénale internationale. Et aussi, j'ai terminé ma carrière comme président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ce qui me donne aussi une vision également de ce que sont les rapports. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais Et en fait, je suis évidemment, j'ai plus tendance à parler de mon institution. J'ai tendance à penser qu'il vaut mieux parler des choses qu'on connaît que des choses qu'on ne connaît pas. Je sais que ce n'est pas tout à fait à la mode. Mais... Ceci étant, à partir de cette institution, c'est vrai qu'on s'interroge, et vous l'avez dit, Joséphine, on s'interroge sur le fonctionnement des institutions. Et il faudrait commencer par se demander à quoi sert une institution. Quoi ça sert ? Pour moi, l'institution sert à garantir aux citoyens que l'État réalise ou va réaliser la promesse démocratique qui nous est faite. Dans notre pays, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, et je rajouterai la dignité parce que c'est une promesse démocratique qui est absolument essentielle et qu'on pourrait peut-être rajouter comme quatrième. Et c'est ça que doit servir une institution, à garantir que l'État... Alors, et ça permet d'éviter les désordres civiques, puisque chacun n'a pas... Moi, monsieur Catalage, c'est ma préoccupation de ma liberté. C'est important. Mais ce qui est important, c'est que sur le plan de l'État, on ait une vision globale de ce qu'est la liberté, de ce qu'est l'égalité, de ce qu'est la fraternité et la dignité. Et pour que les institutions tiennent cette société, non pas comme dans les pays autocratiques par la peur, mais dans un pays démocratique qui tienne cette institution, il faut que ces institutions soient légitimes. Sans légitimité, il n'y a pas d'autorité possible. Autorité au sens d'autoritas, mais romain, c'est-à-dire cette capacité à faire obéir sans être obligé d'envoyer des armées ou des gendarmes pour faire obéir. Donc, c'est cette question de légitimité aujourd'hui qui me semble mise à mal, interrogée, suspectée. Et ça, à mon sens, pour deux raisons. La première, c'est la confusion dans l'exercice des fonctions de ces institutions. Et la seconde raison, c'est l'existence de modes de fonctionnement de ces institutions qui ne correspondent plus vraiment à la demande des uns et des autres, à l'état de notre société. Juste très rapidement, ces deux points-là. Premièrement, la question de la confusion dans l'exercice des fonctions de ces institutions. On le voit bien, je veux dire, on reproche souvent au président de la République de jouer le rôle de Premier ministre, au Conseil de défense de jouer celui du Conseil des ministres, aux parlementaires de se faire juge, aux juges de se faire parlementaire, au niveau national de prendre des décisions qui devraient être prises au niveau local. Bref, une impression générale de confusion. Qui fait quoi et qui prend des décisions? Et cela, à mon sens, ce n'est pas le fait de tel ou tel président ou de tel ou tel parti politique. Cette confusion tient, à mon avis, finalement, à la Constitution de la Ve République et pas à celle de 58, qui finalement était assez claire, mais celle qui a été transformée au fur et à mesure. 58, on est passé à 61 avec le suffrage universel, et là, et l'élection de et aussi la réduction du temps en 2000, on passait de 7 ans à 5 ans. On pourrait prendre beaucoup d'autres éléments, mais je pense que c'est deux éléments principaux. Et tous les constitutionnels vous le diront depuis Maurice Duverger en 1974, que les Français élisent leur roi. Or, il me semble qu'on aurait pu. Donc, on voit bien que tout ça... Alors, c'est vrai qu'on revient au début quand les Francs élisaient leur propre roi. C'est sûr, il y a effectivement... Mais peut-être que les choses ont un peu changé. Donc, cette ambiguïté, cette confusion, on le voit bien. S'agissant de la justice, et je voudrais dire un petit mot sur la justice, c'est que la réforme de 1961, celle de l'élection du président de la République, a renforcé l'ambiguïté à plus de la confusion. Sur dès 1950. Dans la Constitution de 1958, on dit, et l'article 64 de la Constitution, le président de la République garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire. Quand c'était quelqu'un au-dessus des partis, quand c'était quelqu'un qui ne représentait pas forcément l'exécutif, déjà c'était compliqué à comprendre, mais on pouvait le comprendre. Aujourd'hui, en 61, alors que le président de la République est la tête même de l'exécutif, ça, de dire que c'est le président de la République, l'exécutif, qui garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire, il faut vraiment expliquer très longtemps. Et des très bons constitutionnalistes français pour expliquer à des étrangers ce qu'on est en train de dire. Il n'y en a pas un qui comprend. Donc cette confusion institutionnelle, elle est source d'insécurité institutionnelle, qui elle-même nourrit, à mon avis, le sentiment d'insécurité des institutions. Par exemple, qui va prendre une décision sur la taille de mes tomates? Qui va prendre une décision sur la taille de mes tomates? Qui va me juger? Ou qui va juger? Qui va me soigner? Qui va assurer ma retraite? Nos compatriotes qui sont déjà désorientés parce que ce monde est un peu complexe, un peu compliqué, ils ont l'impression de ne plus rien contrôler. Et notamment pas leur avenir et surtout pas celui-là. La tendance est donc au repli sur leur tribu, sur leur réseau propre de solidarité, sur des réponses qui sont simplistes, on en connaît les uns et les autres beaucoup, sur des réseaux de solidarité communautaire ou non, légaux ou non. Il nous faut trouver d'autres groupes d'appartenance que nous contrôlons. Et quand vous interrogez vos enfants, j'interroge mes enfants sur la retraite, ils disent, écoute, papa, des discussions sur la retraite, mais alors, on n'aura pas de retraite. Donc, si vous n'avez pas de retraite, pourquoi vous avez besoin d'État? C'est ça, hein? L'État, il sert. Dis-moi, il sert quand même à faire les routes. Je vois, mais il sert à... Mais il faut peut-être mieux être à la mafia. Là, au moins, vous aurez des institutions de solidarité qui vous permettront de vivre plus tard. Non, je force un petit peu le trait, vous me comprenez bien, mais on sent bien qu'il y a le deuxième... Deuxième fondement de la légitimité qui est en discussion, c'est, comme je le disais, la question des modes de fonctionnement, qui, à mon avis, correspondent plus tout à fait à la société moderne. On vit dans un pays où il existe une croyance quasi mystique dans la seule légitimité électorale. Si vous avez plus de 50%, vous prenez toutes les décisions. Partout. C'est ce que les uns ou les autres, on dit l'appeler la tyrannie de la majorité. Ça a marché. Je dis pas qu'il faille pas, parce qu'au moins c'est un mode de calcul, ça nous permet au moins de. Mais c'est sans doute pas suffisant. Et pour que les citoyens reconnaissent la légitimité globale des nombreuses, des très très nombreuses décisions qui sont prises dans une démocratie moderne, il est nécessaire qu'à côté de la légitimité issue du suffrage universel, existe d'autres légitimités pour les gens qui prennent les décisions. Autrement dit, à mon sens, dans une démocratie moderne, il n'y a pas une légitimité, il y a une addition de légitimités avec des petits L qui forment la légitimité avec un grand L. Et c'est ça qui fait que les gens ont confiance dans les décisions qui sont prises. S'ils n'ont pas confiance dans la légitimité des gens, pour cela, peut-être un peu, pour cela, je reprendrai la distinction féconde, à mon avis, de Pierre Rosan-Vallon, qui distingue d'un côté les institutions au statut démocratique et les institutions qui ont la qualité démocratique. Deux minutes. Parce que je pense que c'est important. Dans les premières, c'est les institutions qui, au statut démocratique, ce sont les institutions qui procèdent de l'onction électorale. Mais les autres, qui sont plus nombreuses en réalité, et elles ont une qualité démocratique de par leur objectif au service de la construction d'un intérêt général, de par leur mode de fonctionnement, la nomination de leurs membres, la collégialité, la transparence, la publicité des délibérations, la reddition des comptes, l'évaluation, l'interaction avec les organismes de la société civile qui sont sur les mêmes sites. Et voilà, à mon sens, c'est notre mot de séquence. Un petit exemple sur la question de la légitimité du juge. Chose que je connais. La légitimité du juge repose non pas comme pour les pouvoirs exécutifs et législatifs sur un moment, ce moment c'est l'élection, mais sur une ratification permanente qui est une remise en jeu à chaque décision. Si le juge rend la justice au nom du peuple français comme c'est inscrit en tête de toutes les décisions, alors le peuple français doit reconnaître l'exercice de sa pratique, doit reconnaître cet exercice de sa pratique comme légitime. C'est dans ce sens que Pierre Rosanvallon estime que pour les institutions d'impartialité comme d'ailleurs la justice, chaque décision, c'est ça qui rend les choses difficiles, chaque décision équivaut à une refondation de l'institution. Je développerai tout ce qui s'est point tout à l'heure quand on parlera de la justice. Je voulais juste insister sur un point sur ça. C'est qu'aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup des hommes et des femmes qui incarnent les institutions. Il y a 20 ans, ça intéressait quasiment personne. Je suis un tout petit peu réducteur. Et on voit bien que la question des conflits d'intérêts est une question qui est aujourd'hui au centre et était au centre de la question démocratique et donc et des modes de fonctionnement. On voit bien que donc ces questions-là sont fondamentales.
Merci. Merci beaucoup. Vincent Leroux, je vais répondre vers vous maintenant. Courage. Alors, vous avez eu de nombreuses expériences politiques, j'en ai cité quelques-unes, notamment auprès de dirigeants qu'on connaît tous, et vous avez également participé à pas moins de 4 campagnes présidentielles. Ça vous donne une sacrée légitimité pour nous donner votre point de vue aujourd'hui, justement sur ces dirigeants politiques, et pas nominativement bien sûr, mais sur ce que ça vous a appris en termes de mécanismes politiques, de mécanismes de gouvernance. Et finalement, qu'est-ce que cette expérience vous permet de tirer comme leçon par rapport à cette crise de légitimité et de confiance hein, dont on parle depuis le début, dont souffrent non seulement les institutions politiques, mais comme ça a été dit, également les personnels politiques.
Merci beaucoup, bon anniversaire donc. 10 ans, c'est un bel âge. Je suis assez d'accord, je suis même très d'accord avec Alexandre. Moi, j'ai toujours appris de tous mes patrons en politique qu'il fallait écouter les chauffeurs de taxi, les garçons de café quand on prend son café au bar, pas assis, les coiffeurs. C'est extrêmement important. Ce qui est embêtant maintenant, c'est qu'on a de moins en moins de commerces de proximité, donc on entend de moins en moins. C'est peut-être l'un des soucis. Alors, je ne sais pas si je vais répondre totalement, d'ailleurs non, j'ai toujours été un mauvais élève, ce qui m'a permis de ne pas faire les écoles, dont parlait tout à l'heure Alexandre, en dehors de celle du terrain, je suis étudié en histoire et j'ai eu la chance, par le terrain, de servir effectivement des femmes et des hommes d'exception, et la chance que j'ai eue de servir des femmes et des hommes d'exception, comme Jacques Chirac, Alain Juppé, Jean-Louis Debré, donc j'étais chef de cabinet au ministère intérieur, ou dans des organisations, c'est-à-dire que j'ai pu observer aussi une autre facette de l'action collective, c'est-à-dire des organisations patronales, puisque j'ai en 10 ans j'ai servi sous la responsabilité de Laurence Parisot au MEDEF, puis de Pierre Gattaz. Ça m'a permis de voir différentes facettes des choses. Je crois que d'abord, on a un premier problème, on a une angoisse de riche. Il faut voir avec réalité. Cette angoisse de riche, c'est que nous sommes minoritaires. Nous sommes minoritaires sur Terre. Nous sommes minoritaires sur Terre, c'est-à-dire que nous vivons en démocratie. Nous sommes extrêmement seuls. C'est-à-dire que la majorité des démocraties, c'est en Europe. On voit bien que même en Europe, celles-ci peuvent parfois tourner vers ce qu'on appelle, je trouve que le terme n'est pas très joli, mais démocrature, et qu'ailleurs, c'est quand même un voilà, donc, premier problème, nous avons une angoisse de riche. Ce qui ne veut pas dire par là qu'il ne convient pas de s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas, au contraire. Mais voilà, ne l'oublions pas, nous sommes. Ça n'a aucun rapport, mais ce matin, j'étais à Fos-sur-Mer, à Fos-sur-Mer, où je rencontrais un certain nombre d'industriels et je travaillais avec eux à la question de l'acceptabilité de la réindustrialisation, de la réimplantation de nouvelles industries dans cette zone qui est déjà énormément industrialisée. Et je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de faire le pont. Faire le pont parce que nous avons effectivement des questions. Alors, je ne sais pas si ce sont des questions institutionnelles, mais en tout cas, on a des questions de souplesse, comme vous disiez. On a des questions de souplesse et d'introduction d'un certain nombre de réalités qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui prennent une place de plus en plus importante, comme cette réalité qui est que le citoyen veut de plus en plus participer à l'élaboration de politiques publiques au rythme auquel il participe de moins en moins aux élections. Alors, c'est inversement proportionnel, et donc effectivement, il faut se poser une question en ce domaine. Je vais vous donner un chiffre. Je ne suis pas du tout, je vois les sondages, ça va, ça vient. Mais les sondages, c'est intéressant parce que ça donne des tendances. Ça donne des tendances et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a un sondage qui est paru, un sondage de l'IFOP, qui est une maison quand même particulièrement sérieuse. Les traits d'image associés à l'avenir, c'est d'avant-hier. Pour vous, l'avenir est plutôt quelque chose d'inquiétant, 83%. Voilà. 83% des Françaises et des Français sont inquiets de leur avenir et donc de notre avenir. Et alors là, j'ai une mauvaise nouvelle pour les représentants de l'institution militaire, c'est que les Français ont confiance en vous, puisque le top 3 des acteurs de confiance, 74% ont confiance dans les scientifiques, 71% dans les forces de l'ordre, police, sur l'armée, et 64% dans les maires. Et puis alors après, ça bouge. Ça bouge. Donc nous avons un problème de confiance. Nous avons un problème de confiance, et je me demande, voilà, est-ce que le problème c'est la poule ou l'œuf ? Est-ce que le problème c'est les institutions ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je suis pas certain que ça soit les institutions. Je suis désolé d'être disruptif, mais je suis pas certain que ça soit les institutions. Moi, je crois effectivement que les institutions de la Ve République, mais j'ai peut-être été invité pour ça, les institutions de la Ve République ont effectivement fait la preuve d'une grande robustesse. Elles ont fait la preuve de leur souplesse aussi, même si parfois j'ai mon discours de point. Il conviendrait qu'elles soient peut-être un peu plus souples, hein, c'est l'étude de la résistance des matériaux, mais elles ont fait ces preuves-là. On peut être amené à constater que dans de nombreux pays, les constitutions, en fait, elles bougent moins fréquemment que chez nous, ça progresse carré à carré, mais on peut aussi constater que dans un certain nombre de ces pays, les problèmes, notamment les démocraties, bien entendu, nous connaissons des problèmes à peu près similaires. Donc, est-ce que ce n'est pas plus dans le fonctionnement que dans les institutions elles-mêmes ? Est-ce que ce n'est pas plus dans l'irrigation de ce fonctionnement, c'est-à-dire dans les femmes et les hommes qui servent ces institutions ? Est-ce que ce n'est pas, en fait, plus le problème de l'État que des institutions ? Je fais le distinguo. Voilà. La rigidité, est-ce qu'elle est celle des institutions ou est-ce qu'elle est celle de l'État? Je ne vais pas répondre du tout, je vais poser un certain nombre de questions, si vous me permettez. Voilà, donc moi je pose cette question. Est-ce que la rigidité à laquelle nous assistons à l'heure actuelle et cette difficulté à répondre à l'inquiétude des Françaises et des Français, est-ce que cette rigidité, c'est celle des institutions ou de l'État? J'ai bien entendu une petite réponse pour ma part. Quand je parle d'irrigation, Je parle bien entendu des systèmes qui irriguent notre vie démocratique, qui nourrissent notre vie démocratique. Vous avez bien voulu rappeler que j'avais effectivement travaillé dans plusieurs campagnes présidentielles et bien d'autres. Moi, je suis frappé, par exemple, de deux choses, au moins de deux. La première, c'est que les partis politiques, de mémoire dans notre Constitution, ont un rôle. C'est celui d'animer le débat démocratique, la vie démocratique, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, ils ont un rôle, c'est clair et net. Et normalement, chacun son job. Et moi, je suis frappé, j'ai servi, servir au sens noble du terme, j'ai servi dans certains des plus grands partis politiques par le passé. Et je suis mais absolument époustouflé de l'évolution des partis politiques. Les partis politiques, aujourd'hui, à la pesée, c'est moins de 500 000 adhérents, 500 000 Français. De la plus extrême des extrêmes gauches à la plus extrême des extrêmes droites, vous additionnez tout, hein, vous avez 500 000 Français. Là où, par le passé, article 4, merci beaucoup, vous êtes très organisé, pas mal de différences, tout le monde le et donc, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent leurs activités, leur activité librement, ils doivent respecter les mêmes. Voilà. Donc, ils concourent. Merci. Donc, vous avez tenté de me déstabiliser.
Oui, c'est très réussi.
Beaucoup. Mais donc, les partis politiques, 500 000 adhérents. 500 000 adhérents qui doivent concourir à l'expression du suffrage, donc à l'irrigation de notre vie démocratique. Moi, j'ai commencé dans un parti politique qui s'appelait le RPR. Notre direction des études, la direction des études à l'époque, qui était donc en charge de la construction des programmes électoraux, était dirigée par un conseiller d'État et c'était une dizaine de personnes. Enfin, je ne m'étendrai pas sur les effectifs actuels dont on nous dit qu'ils sont. Mais voilà, les partis politiques, il y a un certain nombre d'années, parce que c'était la mode outre-Atlantique ou outre-Rhin, mais dans une acceptation différente, ont délégué leurs responsabilités de réflexion à des fondations, comme Sinopia. Enfin, c'est pas une agression. C'est-à-dire que l'UMP, dont j'étais le directeur général adjoint à l'époque, aux côtés d'Édouard Philippe, a créé la Fondapol. Et dans le même moment, dans le même enthousiasme, le Parti socialiste a créé Jean Jaurès et Thérabon. Voilà. Donc, ces grands partis politiques ont pensé qu'il était intéressant, pour des raisons diverses, que la réflexion puisse se développer à l'extérieur. Donc, les partis politiques sont devenus des machines électorales. Très bien. Très bien, sauf que moi, j'ai toujours appris que les partis politiques étaient là pour effectivement être des machines électorales au service de femmes et d'hommes qui portaient des idées. Il ne faut pas supprimer le porter des idées. Donc, ce sont devenus des machines électorales. Le problème des machines électorales, c'est qu'une fois ça gagne, 10 fois ça perd. Et donc, vous êtes arrivé, à mon sens, à un appauvrissement extrêmement important des organisations qui avaient la responsabilité, cher ami, de concourir à l'expression du suffrage universel. Et ça, je pense que c'est un réel problème. C'est un réel problème. Le deuxième problème, il est clair. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais à mon sens, il impacte totalement notre réunion ce soir. C'est l'évolution technologique, la vitesse de l'information et d'ailleurs surtout de la désinformation, et le fait que nos institutions ne sont pas en capacité d'aller à la même vitesse que l'information, ou que surtout la désinformation. Je pense que la réflexion, la deuxième réflexion, elle est là. Mais j'ai encore d'autres questions pour vous interpréter.
Très rapidement.
Oui, je vais être rapide. Donc ça, c'est, pour moi, c'est vraiment deux problèmes tout à fait importants. Le troisième, qui est bien entendu impacté par les deux premiers, c'est le consentement. Le consentement et l'éloignement du contrat social. C'est très clair. Et j'adhère totalement dans ce que dit Alexandre sur le paiement de l'impôt. J'y adhère totalement. Alors, ça m'évite de payer des retards énormes, mais j'adhère totalement. Le paiement à l'impôt, c'est l'acte citoyen, l'un des actes citoyens les plus importants qui soit. Il y a un questionnement à avoir sur le sujet, de la même façon qu'il va y avoir un questionnement sur le versement automatique des aides, même si effectivement c'est louable, puisqu'il y a tout un tas de gens qui ne demandent pas les aides sociales auxquelles ils peuvent prétendre. Et ça, je pense que M. Tatala en sait beaucoup plus que moi. Mais à partir du moment où cela va être automatique, eh bien, le rapport à l'institution va de nouveau s'éloigner et va poser effectivement, in fine, la question du consentement, puisqu'on ne voit pas très bien à quoi tout cela peut servir, puisqu'on n'a plus de rapport direct. J'ai connu Alexandre et Sinopia à un moment paroxystique, parce que je venais de lire que Sinopia voulait supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Donc, je l'ai appelé, nous nous sommes vus, nous avons travaillé ensemble et nous sommes arrivés à des réflexions particulièrement intéressantes. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que les institutions se connaissent. Ça vieillit, ça mûrit. Et je ne vais pas prendre l'exemple du CESE, parce que je suis partial, bien que, mais je prendrai deux autres exemples, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes, donc les petites institutions, qui ont été extrêmement critiquées par les gens, extrêmement critiquées, et qui aujourd'hui ne le sont plus. Ne sont plus après des réformes fondamentales, des évolutions internes fondamentales, l'une sous l'égide de Jean-Louis Debré, qui a vraiment replacé le Conseil constitutionnel au cœur de nos institutions, et l'autre, la Cour des comptes, qui, sous l'égide de Philippe Séguin, mais c'est un hasard si je cite ces deux hommes, sous l'égide de Philippe Séguin, a retrouvé le rôle central qu'elle devait avoir.
On reviendra plus en détail sur les institutions et justement, j'aimerais vous interroger, Alexandre, et préciser aussi que Sinopia est un think tank indépendant et non partisan, contrairement à certains autres organismes qui ont été cités. Alexandre, ça fait 10 ans que Sinopia travaille sur les questions de la gouvernance et qu'on a publié, je m'inclus dedans, qu'on a publié de nombreux rapports, de nombreuses publications. Et le dernier rapport, qu'on a intitulé « Refaire la puissance publique », a été publié juste avant les élections présidentielles pour nourrir le débat de la campagne. Et on a formulé près d'une soixantaine de propositions, notamment, et si vous n'avez pas suivi Breaking News, comme on dit, celle de la création d'un CNR, un Conseil national de la reconstruction, qui était donc une proposition de Sinopia avant qu'elle soit une proposition de l'exécutif. Alors, deux questions avant de revenir sur ce CNR qui a été un peu dévoyé par rapport à l'idée qu'on en avait donnée. Déjà, est-ce que d'après vous, il existe une réforme qu'on pourrait qualifier d'optimale des institutions, une formule magique qu'on pourrait prononcer et qui permettrait de résoudre tous nos problèmes ? Et ce CNR, que ce Conseil national de la refondation maintenant, tel qu'il a été nommé, Est-ce que tel qu'il est porté par le président de la République et tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui avec toutes les questions de légitimité qui sont soulevées, est-ce qu'il peut permettre de conférer une réelle légitimité, une réelle efficacité à toutes les propositions qui vont sortir de ce CNE?
C'est ce qu'on en attendait. C'était l'esprit de ce CNR qu'on a mis sur la table l'année dernière au mois de décembre. Le point de réflexion de ce CNR, en fait, il est assez ancien, mais en fait, en 2017, déjà, on avait lancé un appel en faveur d'un Grenelle de la démocratie en disant ça ne marche plus vraiment, et il faudrait quand même réfléchir un peu en dehors des temps de campagne, finalement, comment on gouverne. Que certes, les institutions sont là, elles peuvent, c'est vrai, sur certains sujets évoluer, et ce que vous rappeliez, Vincent, est tout à fait exact, mais ce n'est pas perçu par les Français. C'est-à-dire que ce sont des réformes qui vont se produire du bon, du fond, de l'utile, et elles ont été portées par des grands hommes. Quand il y a des grands hommes, en général, ça fait quand même des grandes choses, ça aide. Mais en attendant, pour les Français, ce n'est pas forcément perceptible, parce qu'il y a tellement de voix que c'est compliqué. La question de la légitimité, en fait, elle est vraiment centrale. Et moi, j'ai souvent coutume de dire que, en fait, on se trompe quand on parle de légitimité aujourd'hui, étant donné le niveau de défiance, le niveau de remise en cause. Et finalement, parfois à juste titre, hein, les critiques qui sont formulées à l'égard des gens qui sont à l'intérieur du système, qui n'ont pas finalement si bien fait le job que ça depuis trois décennies. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Enfin, s'ils avaient géré n'importe quelle organisation privée comme on a géré le pays, ils seraient hors du jeu, quoi. Il n'y a personne qui en vrai. C'est-à-dire, moi, je suis chef d'entreprise, je suis président d'association. Très sincèrement, j'ai des obligations de résultat qui n'ont aucune commune mesure avec les gens qui sont des affaires. J'adorerais pouvoir tirer comme ça, faire des chèques en blanc, comme on le fait depuis très longtemps. Alors, on a, pendant un temps, même été jusqu'à louer les vertus de l'endettement. Très bien. Et quoi qu'il en coûte, très bien. Mais il y a un moment donné où on va bien voir que ça ne suffit pas, quoi. Et là, ça ne suffit plus, très clairement. Et ça va être compliqué. Donc, la question de la légitimité est posée parce qu'en fait, on a une confusion sémantique majeure, comme on a une confusion sémantique sur la représentation nationale et le reflet national. L'Assemblée reflète aujourd'hui la société, mais elle ne la représente plus vraiment. Et de la même manière, on dit on est légitime. Non, vous n'êtes pas légitime. Vous avez la légalité pour eux. Les élus, quand ils sont élus, ils ont la légalité pour eux. Ils ont la légalité pour agir. Mais ils ont perdu le faire des Français. Ils ont perdu ce qu'il y a dans la tête des Français. Ils ont perdu ce qui permet de fabriquer une consentement. Et ça, c'est absolument majeur. Alors, il faut reprendre le chantier. Il n'y a pas, pour prendre une question, il n'y a pas de réforme magique. C'est trop tard pour qu'il y ait une réforme magique. Il n'aurait pas fallu, quand on est allé très, très bas dans le niveau de défiance et d'inefficacité d'un système, ou de peu d'efficacité. Ouais, la bouteille est toujours à moitié vide ou à moitié pleine, hein. Il n'y a rien d'être totalement imparfait, mais ça pourrait quand même beaucoup mieux faire. Eh ben, il faut reconstruire. Alors, il y a des pistes, hein. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas tout changer dans les institutions. Je ne pense pas qu'on puisse revenir sur l'élection suprême universelle du chef de l'État. Je ne sais d'ailleurs pas si ce serait une bonne idée. Hein. Les Français y sont attachés. Et après tout, pourquoi pas? Il faut bien, à un moment donné, fabriquer des chefs. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de dispositifs sur lesquels la Constitution n'a pas évolué, aurait dû évoluer, aurait dû se remettre en question. Quand vous prenez Taïwan, il y a une vingtaine d'années, ils ont quitté l'état d'urgence pour se transformer en démocratie. Et ils ont inventé, dès le départ, ce qu'ils ont vu par ailleurs se mettre en œuvre, c'est-à-dire la démocratie parlementaire représentative. Voilà. Puis ils se sont rendus compte très vite que, fait notamment de la révolution numérique qui passait par là, que ça suffisait pas. Et donc, ils ont fait très rapidement évoluer leur modèle démocratique. C'est comme 22 millions d'habitants, Taïwan 23 millions, hein, donc un peu sous pression à côté parce qu'ils ont un voisin un peu remuant. Mais n'empêche qu'ils ont fait tout de suite évoluer leur modèle au bout de quelques années pour dire, bon, il faut rajouter un pilier participatif. Les gens, ils veulent participer. Peut-être pas tout le monde, après ça se régule. Donc, notre démocratie, premier point, si on veut qu'elle tienne, et notre système, nos institutions, notre pays, s'il ne veut pas être emporté par une implosion, une explosion à l'avenir qui viendra avec des partis dits extrêmes, en tout cas contestataires, qui prendront la main et qui feront peut-être bien pire qu'eux, et qui, au bout du compte, nous amèneront peut-être un jour à un régime encore plus autoritaire que ce qu'on a pu connaître, ou même ce qu'on a pu vivre pendant la vie politique, où le régime est un peu raide quand même, par rapport à nos principes démocratiques, mais sans doute le fallait-il. Je pense qu'effectivement, il faut irriguer la démocratie française, et ça, c'est constitutionnel, par des dispositifs complémentaires. Alors, c'est ce qu'a tenté de faire Vincent Leroux quand il était au CESE, et je peux en porter témoignage, ils ont vraiment essayé de faire du CESE une troisième chambre qui donnerait véritablement l'occasion à la société civile organisée, c'était leur thème, leur terme, de vraiment de co-élaborer les politiques publiques en partant des réalités de ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont dedans, ceux qui sont concernés directement sur le terrain. Bon, ça a en partie été au bout mais pas avec l'ambition initiale, parce que le président n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, parce que le Sénat a bloqué pour toutes les raisons que vous connaissez mieux que moi. Donc malheureusement, cette réforme n'a pas été aussi loin que ce qu'elle aurait pu aller. Mais en tout cas, dans cette réforme, il y avait une vraie volonté d'aller vers une démocratie davantage consultative, de prendre en compte les paroles des citoyens dans le cadre de bonne gestion des pétitions. Quand les gens disent quelque chose, il faut les écouter. Voilà, les Anglais l'ont bien compris. Les Anglais, ils ont mis en place sur le site du Parlement britannique un système où vous pouvez faire des pétitions. Voilà. Vous faites une pétition, vous avez 10 000 personnes qui pétitionnent, je simplifie, hein, mais grosso modo, ça reste comme ça. Une personne qui pétitionne, bah, ils ont droit à une réponse du gouvernement. Voilà. Et si au bout de 100 000 personnes pétitionnent sur un sujet déterminé pour proposer ou pour aller, hein, bah, ils provoquent un débat à la Chambre des communes. Bah, au moins, il se passe quelque chose. Voilà. En France, c'est non, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, le CESE a commencé effectivement à regarder un peu plus près et il rit. Le gouvernement, quand il y a des pétitions qui font un peu de bruit, mais ça reste encore très marginal, très embryonnaire, parce qu'en plus, le Sénat veut son propre outil, l'Assemblée veut son propre outil, en France, tout le monde veut son truc. Voilà, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc oui, il faut faire évoluer les pratiques démocratiques, c'est essentiel. Il faudra quand même se poser des questions de fond, parce que c'est vrai que les institutions ont fixé un cadre qui, à mon avis, mériterait d'être revu en ce qui concerne la place de la justice. Qu'on le veuille ou non, ça a été dit par Bruno Catala, et on a beaucoup parlé de Bruno ces dernières années. Je pense que Bruno fait partie des magistrats avec qui c'est une chance extraordinaire de travailler pour réfléchir à ces questions-là, parce qu'il est juge et parti, mais en même temps il sait prendre de la hauteur et s'extraire de son rôle de juge et parti, c'est ça qui est assez précieux. Et très sincèrement, moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'en France, on a trois pouvoirs, non, on a deux pouvoirs et demi. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité, du fait qu'elle procède du chef de l'État en termes de garantie d'indépendance. Je crois que c'est une erreur. Je pense qu'il faudra revenir là-dessus et que ça aussi, ça fait partie des grandes évolutions. Je pense qu'il faudra amender que la justice soit une apparentie. Alors, il ne faut pas transformer ça en république des juges, hein, mais ça ne peut pas nécessairement basculer comme ça. Tout ça, ça s'encadre. Et puis, les juges font plutôt pas si mal leur boulot que ça quand on regarde de près. C'est ce que j'essaie de faire, je crois. Et donc, ça, c'est un point important aussi. Il y a des grandes, et ça, c'est des points de confiance. Parce qu'attention, le jour où vous insufflez dans le système le sentiment que la justice fait bien son boulot, qu'elle a les moyens pour bien faire son boulot, ben vous rétablissez un gage de confiance. Donc, mieux de démocratie, plus de démocratie. Bien sûr qu'il faut garder le pilier représentatif parce qu'on n'a pas le choix. Celui-là, il devra toujours en dernier ressort être celui qui est mené, qui estampille que c'est la loi ou ça, c'est pas la loi. Ça, c'est clair. Mais il faut l'irriguer, cette pensée démocratique, cette pensée de fabrication de la loi, de multiples manières. Et là, effectivement, la participation, la délibération, les jurys citoyens, etc., et pas façon gadget, hein. Il y a eu beaucoup d'expérimentations pendant le précédent quinquennat. On ne va pas les jeter comme ça direct avec le bébé du bain. Il y a eu des expérimentations. Après, on peut les critiquer. Le grand débat aurait pu être mieux monté sur le consensus sur le climat. Pareil, ça aurait pu être mieux fait. Bon, mais bon, il ne faut pas tuer les expérimentations. Il faut les continuer. Et le CNR, j'en viens à ça. Merci de me le rappeler. Le CNR, justement, c'était une proposition qui allait dans ce sens-là. C'était dire il faut faire de la politique autrement. Il faut bâtir une réflexion politique autrement. Parce que acceptons de dire que finalement, ce qui sort des urnes avec une Assemblée nationale et même un président de la République, c'est d'une légitimité très relative, très fragile, très peu durable, quelques mois maximum. Et après, on tombe dans la contestation et de toute façon, plus personne n'a confiance en rien, même quand on est pratiquement adhérent ou d'accord avec sur le papier ou qu'on a voté pour. Donc, il faut parler avec le grand. Et donc, réunissons dans une instance déterminée, pendant un temps déterminé, des gens un peu tirés au sort, des représentants de la société civile organisée, des syndicats, etc., des élus, puis prenons un peu de recul et faisons-les travailler vraiment, pas sous le feu des caméras, pas avec la logique partisane, etc., mais un peu comme des jurys d'assises. On essaie de secouer les problèmes, de prendre le temps de réfléchir et d'arriver à un moment donné à poser sur la table des propositions qui ont été vraiment challengées. Et pas par le bas, pas par le plus petit dénominateur commun, mais vraiment en allant loin. C'était ça notre idée. Et prenons les institutions, les pratiques démocratiques, prenons quelques grands sujets de fond sur le fonctionnement de l'État, sur rebâtissons l'État, mais en partant du citoyen. C'est intéressant de se poser la question de comment on refait demain. Ben, c'est intéressant de dire, OK, ben, commençons par regarder comment ça se passe et puis essayons de remettre un peu de... Bon, tout ça, c'est très utopique sans doute. Mais il n'empêche que c'était l'intention de notre CNR. On était contents parce que ça, l'idée avait été reprise. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises au printemps avec plusieurs ministres d'Emmanuel Macron. On nous a beaucoup questionnés, on nous a demandé de produire des petites notes sur la légitimité, sur le consentement, donc on a fait notre boulot. Bon, et quand on a vu la copie sortir au mois de juin et la manière dont... Voilà, bon, on était un petit peu déçus, parce que là encore, tout est question de méthode. Voilà, l'intention est bonne, le fait que le président ait voulu le faire, c'est super, on est ravis, on se fout du copyright, c'est pas le sujet. On est content parce que c'était une bonne idée mise en œuvre, mais après, c'est la méthode. Et dans un système où la défiance est de mise, le fait de faire un CNR annoncé par le président qui n'est élu que par 17% des Français au premier tour et qui en plus rattache ça à son conseiller direct à l'Élysée, c'est donc encore un instrument au service. Et donc les conditions de la fabrication de quelque chose de, qui est finalement connu, reconnu, respecté, est à la base est entachée de, voilà, de difficultés. Donc voilà, on a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est faire évoluer notre système, mais en même temps de travailler autrement, donc de travailler à la question de comment on fait la méthode. J'ai croisé Laurent Cassé, le marché de mon quartier, pardon. Il venait de quitter Matignon, parce qu'on habite le 15e, il s'y est installé. Et on a cheminé un peu comme ça. Et la seule chose sur laquelle il insistait vraiment, c'est la méthode. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas des gouvernants, des élus qui se reposeront la question de la méthode, de la fabrication, de la décision publique, dans le cadre des institutions, mais en les faisant évoluer, on aura effectivement des décisions très difficiles à fabriquer et des tensions qui vont continuer, à mon avis, telles que c'est parti, des tensions qui vont continuer à croître. Rien aujourd'hui ne laisse penser, et le sondage que vous évoquez ne peut dire le contraire, puisque à court terme, quand on est citoyen aujourd'hui, c'est flou. Et c'est inquiétant. À moyen terme, c'est flou, c'est inquiétant. Et à long terme, c'est flou, c'est inquiétant. On n'est plus dans la dynamique des 30 glorieuses. On est dans quelque chose qui, pour l'instant, laisse penser que demain, c'est pas moins bien qu'aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile de bâtir un narratif dans ce contexte-là. Donc, il y a intérêt à faire attention et à donner vite des gages que, OK, on va faire autrement et on va le montrer. Et en plus, accessoirement, déjà, j'y tiens, on va bien se comporter. L'exemplarité, c'est clair. Après, si vous souhaitez, on pourra parler du col blanc. Je suis passionné.
Autre sujet et peut-être autre mesure. Bruno Catala, assez rapidement pour laisser quand même du temps aux questions, mais on va parler un peu plus précisément de cette institution que vous connaissez bien, la justice. Les états généraux de la justice l'an passé ont mis en avant le manque de moyens, mais aussi la fatigue, une fatigue généralisée des personnels de justice. Alors ça, c'est un thème que Sinopia a beaucoup travaillé, Alexandre l'a rappelé, et en 2021, on a notamment publié un rapport qui s'intitulait « Pour une révolution de la justice et de son écosystème ». Révolution, le mot n'est pas trop fort. Et parmi les propositions phares, on retrouvait par exemple la séparation des juges du siège et du parquet, ou encore la création d'un procureur de la nation, et bien d'autres propositions. D'après vous, d'après votre expérience, comment est-ce qu'on pourrait parvenir à moderniser cette institution et à retisser le lien de confiance entre les Français et la justice, la puissance publique, mais la justice en tête, en ce qui concerne. Et j'ai une deuxième question qui est volontairement un peu provocatrice. Une des sources identifiées de la défiance vis-à-vis de la justice vient du fait que beaucoup estiment que les juges ont tendance à se mêler un peu trop de tout, peut-être un peu trop aussi des affaires publiques, et que d'une certaine manière, il contribuerait à l'impuissance de l'État. Alors, question provocatrice, est-ce que l'État de droit s'est substitué au droit de l'État ?
C'est combien de temps j'ai pour répondre à cette question ? La réponse est évidemment non, je ne peux pas. Et donc, la réponse est aussi courte que la question était longue. Peut-être deux secondes sur cette question, sur ce point-là. Quand les hommes politiques ne savent plus quoi dire, ils parlent de gouvernement des juges. Ça n'a jamais existé, jamais. Ça n'existe nulle part, ça n'existe jamais existé. S'il y a un gouvernement des juges, c'est peut-être en Angleterre où, d'une certaine manière, les juges anglais ont une importance considérable, puisque c'est eux qui assurent l'égalité entre les citoyens. Chez nous, c'est l'administration qui assure l'égalité. C'est une vieille histoire. Je ne comprends pas l'histoire. Donc, c'est l'histoire. Ce qui est vrai, ce qui est exact, c'est que, en réalité, parfois, et on a eu une discussion, des représentants, je crois que c'était l'Assemblée nationale ou le Sénat, qui était là. Donc, on était dans un face-à-face. Et il disait, mais oui, mais alors qu'est-ce que vous voulez, vous prenez des décisions qui sont contre la loi, en respectant le droit européen. Juste pour reprendre deux petites secondes, la base de ce que je dis, ma petite, c'est que si on applique le droit européen, c'est parce que c'est vous qui avez décidé qu'on applique le droit européen. C'est pas moi qui ai décidé, ou qu'on applique cette convention, c'est vous qui l'avez ratifiée. Donc, on sent bien chez les politiques qui sont gênés en tournure, et au lieu d'expliquer de montrer quel est l'intérêt pour le citoyen. On est un droit européen, c'est-à-dire qu'on est un droit, on connaît des conventions qui nous garantissent. On voit bien dans les autres pays, quand il n'y a plus ces garanties, on voit bien ce qui se passe, qui nous garantissent notre liberté, notre égalité. Donc, on sent bien chez les hommes politiques que quand ils sont devant leurs électeurs, il faut expliquer ça. Et qu'ils n'ont pas d'histoire à raconter. Ils n'ont pas de récit. Et ça, c'est le sujet, à mon avis, qui est un sujet absolument majeur. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive à concilier le local et le global, l'européen et le national. Et ça, alors que c'est assez simple en réalité. Et c'est considérer les Français comme des imbéciles, c'est une expression facile, excusez-moi, de ne pas pouvoir leur. Comme si on ne pouvait pas leur expliquer. Comme si notre souveraineté aujourd'hui, et ça va vous parler, on parle d'une souveraineté, ah oui, notre souveraineté nationale. On a deux souverainetés, on appartient à deux souverainetés, souveraineté nationale et souveraineté européenne. Excusez-moi, je vais éloigner un tout petit peu du sujet, je vais revenir sur le sujet. Donc, on est dans une modification, mais il faut expliquer ça. Il faut le dire, il faut expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est comme quand on dit que le droit français, c'est mieux que le droit anglais, le common law. Oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, et on n'a rien dit. Par contre, on a des arguments. Par contre, on a des arguments. Et ces arguments, on pourrait les développer, mais on ne les développe jamais. Juste un petit mot sur la justice, parce que autrement, je vais y passer. La justice. Et je reprendrai l'exemple que vous avez donné parce que c'est l'exemple que vous avez qui apparaît dans le cahier de Sylvie pour une révolution de la justice et son écosystème. Et un exemple qui, à mon avis, qui est topique. On pourra parler de toutes les autres choses, de la communication, le rendu des comptes, la responsabilité des juges. Mais il y a une question qui est fondamentale, qui est la séparation entre les juges du siège et les juges du parquet. Ah oui, les magistrats. Aujourd'hui, on confond tout. Hein, on confond le procureur et le juge. Et il y a des raisons. Et c'est pas la faute des gens. C'est notre faute. C'est la faute. On n'explique pas. Les membres du parquet, ils sont certes des magistrats, mais ils travaillent sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice leur dit, c'est le gouvernement qui définit la politique de la nation, article 20 de la Constitution. qui définit la politique de la nation, et notamment la politique pénale. Et donc, c'est normal que le garde des Sceaux envoie des instructions au procureur en disant nous, on a décidé qu'on allait poursuivre tous les trafiquants de drogue. C'est pas vrai. Mais voilà. Voilà. Bon, on a décidé qu'on allait lever les barrages des routiers, par exemple, qui bloquent la France. Donc, c'est le gouvernement et c'est au procureur de la République localement de mettre en œuvre cette politique globale. Et le gouvernement n'a pas le droit de donner des instructions individuelles, de dire « Monsieur X, qui est routier, vous allez me le mettre en taule. » Ça, il n'a pas le droit. Et il définit des politiques globales et c'est au procureur. Donc, il dépend du ministre. Il dépend du ministre. Mais de l'autre côté, le juge, lui, il dépend d'absolument aucun ministre. Il dépend uniquement de la loi, de son raisonnement juridique, de la collégialité qui est autour de lui. Et il est indépendant. Et pourtant, ces deux types de magistrats, on les appelle d'abord des magistrats tous les deux, ils sont formés dans la même école. Et tout le monde confond tout, parce que quand on dit le procureur est là, il a demandé 20 ans, tout le monde pense qu'il essayait, il était condamné à 20 ans. Ça n'a absolument rien. Là, il y a quelque chose d'absolument fondamental. Il y a quelque chose de fondamental, non pas seulement pour les Français, mais pour l'étranger. Quand moi, j'ai un peu travaillé donc, à l'international, si je peux dire ainsi, quand vous expliquez ce système à des juges anglo-saxons, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Il disait, mais il est juge, il n'est pas juge, procureur. Quand vous parlez en victime comme ça, il ne parle pas à la défense de la même manière, etc. Donc, on a un sujet qui est absolument fondamental et qui crée on revient sur la notion de confusion. Voilà une institution qui est confuse. Voilà une institution confuse. Donc, il faudrait, à mon sens, séparer d'un côté les juges du siège des parquets. Voilà une révolution, voilà une évolution qui serait absolument fondamentale et qui dirait quelque chose de notre volonté d'arrêter les confusions. Et si on veut aller un peu plus loin, juste sur ce sujet-là, aujourd'hui, il y a le gouvernement qui définit la politique de la nation. Mais on pourrait avoir un débat au Parlement sur la politique pénale. Et on pourrait décider que le chef de la politique pénale, s'agissant des procureurs, soit désigné par le Parlement, une sorte de procureur de la nation qui exécuterait une politique après une... Voilà, très rapidement, un mot, mais je pourrais...
Voilà. Vous aurez certainement des questions pour développer. Voilà. Merci beaucoup. Vincent Leroux, je termine ce tour de table avec vous. Deux questions. Déjà sur le Conseil économique et social et sa réforme dont vous avez parlé ainsi qu'Alexandre, est-ce que vous pouvez... C'est pas une institution qu'on connaît bien. Et c'est une institution qu'on a tendance à sous-estimer. Alors, en 2018, le CESE a entamé sa propre réforme, une réforme interne. L'exécutif n'a pas validé toutes les propositions formulées par le CESE pour sa réforme, mais une partie. Quels enseignements on peut en tirer déjà? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Et puis, est-ce que ça replace le CESE au centre du jeu politique, finalement? Est-ce que ça lui donne, ça donne corps à cette idée qu'elle serait effectivement la troisième chambre de la nation représentante de la société civile? Et deuxième et dernière question, si vous aviez une mesure phare pour réformer les institutions ou l'État, j'ai bien compris qu'il y avait une question en suspens, quelle serait-elle?
Oula, deux minutes comme Bruno Cattard.
Voire moins.
Donc, merci beaucoup. D'abord, surtout pas, il ne faut surtout pas que ces deux viennent au centre de la politique, ni institutionnelle. Le CESE, c'est la troisième assemblée constitutionnelle, c'est le Conseil économique, social et environnemental depuis la réforme de 2008. Cette institution, qui date grosso modo de 1924, est entrée à la Constitution en 1947. Et n'est jamais sorti de la Constitution depuis lors, malgré les tentatives d'un certain nombre de gens inamicaux, mais que je comprends totalement, parce que le Conseil économique, social et environnemental n'a pas, n'est pas très connu, ça c'est très clair, et il n'a pas vocation à l'être. Et puis d'ailleurs, est-ce que nous sommes dans un concours de marketing des institutions, et est-ce qu'il faut que toutes les institutions soient particulièrement connues des Françaises et des Français pour être efficaces? Je ne suis pas certain que ce soit ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est plutôt d'être efficace. Donc ça, c'est le premier point. Il y a eu un sondage, un très très grand sondage, je crois que c'était aussi par le CEVIPOF, au moment des Gilets jaunes, où on demandait aux Françaises et aux Français leur connaissance des institutions, justement, et s'ils connaissaient le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le Sénat. Hein, le Sénat, j'avais été extrêmement surpris des chiffres, puisqu'ils étaient un tout petit peu au-dessus du CESE, n'est-ce pas? Et alors, le Sénat est extrêmement efficace, il joue pleinement son rôle, et ce rôle est important. Donc, voilà, le problème n'est pas forcément d'être connu et reconnu de tout le monde, le problème est de jouer son rôle. Qu'est-ce que le CESE? Le CESE, c'est donc la troisième chambre, c'est l'assemblée de la société civile organisée. Qu'est-ce que c'est que la société civile organisée? C'est l'ensemble des associations, de syndicats, de salariés et patronaux, des fondations, du monde paritaire, du monde mutuel, voilà. C'est-à-dire, bon an, mal an, grosso modo, une fois et demie la population active du pays. Voilà. C'est pas beaucoup, on est d'accord, mais c'est plus que d'autres. versus ce que je disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent jouer un rôle équivalent ni à la représentation nationale, ni aux partis politiques. En revanche, cette société civile organisée, c'est-à-dire la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, c'est-à-dire la CFDT, c'est-à-dire le MEDEF, c'est-à-dire SOS Attentat, c'est-à-dire WWF, c'est-à-dire, voilà. Bref, grosso modo, quand j'étais son directeur de cabinet, il y avait grosso modo 29 organisations qui y étaient représentées. Voilà. Et qui donc, en totalisant leurs adhérents, pesaient, voilà, une fois et demie la société, une fois et demie la population active. Ces associations, et NERV est une association, hein, Synopia aussi, et vous faites certainement partie d'autres associations, par votre engagement, par votre travail quotidien dans ces associations, vous tirez ce que j'appelle, moi, une expertise d'usage. Une expertise d'usage. Et cette expertise d'usage, elle est répartie sur l'ensemble du territoire. Parce que vous ne trouverez pas un village où il n'y a pas une société de chasse, des représentants de la Ligue de protection des oiseaux, des représentants de la Croix-Rouge, ou un militant CPT ou une petite entreprise qui appartient à la CPM. Vous n'en trouverez pas. C'est donc une expertise d'usage qui remonte de l'ensemble du territoire national. Et c'est donc une expertise d'usage, certes parcellaire, limitée à l'objet social de l'organisation, mais qui est énorme. Et donc, mais pourquoi se priver de cette expertise d'usage? Pourquoi diable? Parce que la remontée de ces expertises d'usage vers le sommet parisien, parce que tout ça est quand même centralisé en France, donne une capacité aux responsables de ces organisations à dire un certain nombre de choses. Et donner la capacité aux représentants de ces organisations à confronter leurs expertises d'usage, c'est quand même éminemment intéressant pour notre société. Et donc, le rôle du Conseil économique, social et environnemental, c'est quoi? C'est de produire des avis destinés à éclairer les pouvoirs publics, à éclairer la représentation nationale. Voilà, c'est ça le rôle. C'est ce qui est écrit. Toujours avec cette imprécision qui caractérise par rapport au texte. Mais c'est ça le rôle. Et c'est un rôle qui, s'il était correctement pris, serait d'une très grande valeur. Parce que, là aussi, pour les institutions, il faut toujours se poser la question, quand on les critique, est-ce qu'on critique l'outil ou ceux qui se servent de l'outil? Alors, il y a une question à se poser. Je ne dis pas que le CESE est le phénix de ses bois, je ne dis pas que son rôle est fondamental dans notre société, je dis qu'il peut apporter beaucoup, il peut éclairer énormément, à la fois le Parlement et l'exécutif, et c'est ce qu'il fait, mais hélas, il n'y a pas forcément de copyright. Bah oui, il y a des institutions, c'est comme partout, hein, copie sur le voisin, et puis, voilà. Hein. Voilà. Ensuite, il y a quand même un deuxième point. Au-delà de cette expertise d'usage dont il serait idiot de se passer, il y a un deuxième point. C'est ces organismes, ces associations, ces syndicats, quels qu'ils soient, contribuent tous à, je dirais, à une part de la marche du pays. C'est un engagement volontaire et totalement, bien souvent, bénévole. En échange, on peut quand même leur donner la capacité à dire des choses. Parce que il faut quand même pas oublier que c'est une question que je pose à chaque fois à mes étudiants, c'est fermer les yeux, Imaginez que les rétroviseurs, les banques alimentaires, le Secours catholique arrêtent de distribuer des repas. Que se passe-t-il? Rien. Rien, parce que les entreprises privées ne sont pas faites pour. L'État n'a pas la capacité à, donc ça fait mieux que moi. Alors, bien entendu, il y aurait des choses de faites. Ça ne sera pas rien. Mais en tout cas, il ne se passe rien dans la durée. Donc, ce que je dis pour les banques alimentaires ou autres, on peut le décliner sur plein d'autres choses. Donc, à la fois, le Conseil économique et social et environnemental, d'une part, c'est écouter l'expertise d'usage pour en produire quelque chose, et d'autre part, c'est donner la capacité à ces organisations de pouvoir s'exprimer dans le cadre d'une institution de la République. Donc, le CESE, comme toute institution, et je le disais tout à l'heure pour le Conseil constitutionnel, pour la Cour des comptes, et c'est valable pour tout le monde, mais ça avance. Ça avance, ça vieillit, ça mûrit, et donc, petit à petit, ça peut prendre, ça prend son envol. Faut pas croire que, une institution, ça naît comme ça. Je prends l'exemple de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, dans l'esprit, ce que nous avons cherché à faire et qui va continuer, qui va petit à petit prendre sa place dans notre paysage démocratique. La parole citoyenne, c'est très simple, et je terminerai là-dessus, je vous rassure tout de suite. La parole citoyenne, depuis 30 ans, tous ceux qui ont été maires, conseillers municipaux, ont connu cela. Avant, on était élus, et c'était terminé, on se revoyait 6 ans après. Depuis 30 ans, c'est plus la peine, c'est plus ça, c'est plus du tout ça. Depuis 30 ans, le citoyen, le lendemain de l'élection, quand il voit arriver le bulldozer pour creuser le parking, qui était dans le programme du maire, qu'il vient d'élire, eh bien, le citoyen dit « Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Ben, vous venez de m'élire. Vous venez de m'élire, donc vous avez voté pour mon programme, donc on se revoit dans 5 ans. » Eh ben non, maintenant ce n'est plus possible. Maintenant, le citoyen demande, entre deux élections, à participer à la vie de la nation. Et il demande ça, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon inversement proportionnelle à sa participation aux élections. Il faut laisser ces respirations démocratiques s'instaurer. Il faut les laisser. Et ce qui a été inventé, c'est-à-dire les conventions citoyennes, c'est simplement la prise en considération de ce qui se passait au niveau local et son portage au niveau national. Et ce portage au niveau national n'est, en tout cas dans l'esprit des gens qui ont organisé la Convention citoyenne pour le climat, et la convention citoyenne qui va se dérouler à partir du 9 décembre sur la fin de vie, c'est un éclairage de la part de citoyens qui ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas députés, ils ne sont pas députés, qui ne sont pas représentatifs, mais qui sont tirés au sort et qui, dont la somme, représente l'ensemble des âges, des CSP, des territoires, etc., etc., et afin qu'ils donnent un éclairage, sur, plus particulièrement, des questions fondamentales. Ils ne sont pas là pour faire la loi. Et c'est l'une des grandes incompréhensions de la Convention citoyenne pour le climat. Ils viennent pour donner un éclairage. Ils ne viennent pas pour eux. Et ça, c'est un instrument démocratique qui a, alors, pour moi, totalement réussi pour la Convention citoyenne pour le climat, c'est-à-dire qu'elle a existé, cette initiative. Elle a existé, elle a vécu, elle est allée jusqu'à son terme. On peut la critiquer, je suis le premier à la critiquer d'ailleurs, sous beaucoup d'aspects, mais voilà, c'est une évolution qui va petit à petit, je dirais, prendre sa vitesse de croisière, comme cela a été le cas, ou comme cela est le cas dans un certain nombre de pays européens, il y a ce type de mécanisme qui sont des respirations démocratiques et des prises de température. Il faut lui donner son rôle, pas plus que son rôle. Mais c'est la démonstration, ce que je voulais par là, faire par là, c'est dire, voilà, c'est quelque chose de nouveau, ça ne va pas marcher tout de suite, il faut laisser sa chance à ce type d'expérimentation. Ce sont des expérimentations qui sont destinée à venir nourrir nos institutions, nourrir la République. Et c'est, à mon sens, beaucoup plus par des évolutions de ce type que par je veux dire, un changement constitutionnel qui va être, je dirais, un choc politique dans un pays qui n'a pas forcément besoin d'être divisé plus qu'il ne l'est. Pour moi, l'évolution qui peut arriver, c'est celle-là. C'est l'introduction de respiration démocratique afin qu'il y ait moins de rigidité. Deuxièmement, c'est une vraie réflexion sur l'État, parce que je pense que l'État, lui, doit se réformer. Ça, c'est clair. L'État est trop rigide. Il ne répond plus aux aspirations. Les politiques publiques sont trop complexes, mettent trop longtemps à se mettre en place, et le regard que porte le citoyen sur... Vous citiez, je crois, le président de la RATP tout de suite. Le regard que portent les Franciliens actuellement sur le transport en Île-de-France, le regard que les Françaises et les Français qui ont des enfants ont porté sur le recrutement en urgence pour l'éducation nationale de 5000 profs au mois de, à fin août, bon, etc. etc. Là, il y a une véritable réflexion, et ça, ce n'est pas les institutions.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Pour ne pas perdre plus de temps, je vous propose de passer directement aux questions si vous en avez.
Attendez la question, le micro. Tout le monde est question.
Retour à la base, c'est quand même l'éducation institutionnelle, les institutions. Vous avez noté le consentement, c'est bien, mais je pense que c'est plutôt l'adhésion. Et il y a eu des tas d'autres choses qui ont été dites sur l'État. Je pense que je suis étonné de ne pas avoir entendu sur les questions de nos institutions fondamentales. Quelque part, on a parlé bon, de l'aspect bancal du quinquennat, français, mais je pense quand même que Thomas Pagliucci le rajoute. Vous avez participé peut-être en tant que participant, etc., à un certain nombre de choses, de connaître en préambule quelque chose qui est beaucoup moins clair, beaucoup moins rigide que la Constitution ou les articles de loi. Et quand on y a rajouté la Déclaration des droits de l'homme. C'est quand même quelque chose. Et alors, après, il a été bien rajouté par quelqu'un qui fait partie quand même du vrai chupitain, vous avez démontré, qu'on est aussi, on a accepté de rajouter une loi supérieure, tout au moins un pont, un CVDH supérieur, qui permet de nous donner une vue, et pas aussi claire que ça, de notre législation. Ça, c'est un dernier exemple, quand on veut évoluer trop, la QPC est quelque chose d'intelligent, je crois, mais qui est le contraire de la légion. Parce qu'on sait qu'il vous remet, tout ce sur quoi on croit, ou sur lequel on vit, peut être changé.
Je trouve que la manière dont vous abordez les choses est intéressante, parce que je n'avais pas pensé dans ce sens-là. Peut-être deux choses. Commençons par la CEDH. Je sais que ça, c'est un peu... La CEDH, c'est une convention, et cette convention, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, elle a été ratifiée par... Et cette convention est utilisée par les juges, puisqu'ils ont un devoir de contrôle de conventionnalité. C'est-à-dire qu'ils doivent vérifier que les textes sont conformes aux conventions qui ont été ratifié ici. Et c'est ce que font les juges. Alors, ce que vous semblez dire quand vous parlez de la CEDH, c'est de dire, finalement, ça s'impose à nous, malgré, par moment, contrairement à ce que l'on souhaiterait. Oui, c'est ça. On a choisi d'y adhérer. Et je pense que c'est une bonne idée d'y adhérer. C'est une bonne idée parce que finalement, ça nous fait évoluer. On ne reste pas entre nous, il y a des moments où on est. Vous savez, on, avec la CGM, on a beaucoup fait évoluer, par exemple, le droit de la garde à vue. On a fait évoluer un certain nombre de droits, toujours dans le sens de la liberté et de garantir la liberté. Des choses que nous, on croyait, et on le croyait de bonne foi, mais quand on a vu que disaient les juges de la CNH, donc il y a un juge français, là, de l'ensemble de la société, chacun exposant son nom. Et on a vu un peu, et on est en train de créer une sorte de valeur européenne, mais pas au sens de l'Union européenne, au sens du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire beaucoup plus important. Et ça développe toutes ces valeurs qui sont des valeurs de liberté, de qualité, dans l'ensemble des pays du Conseil. Et ça, je trouve que c'est quand même. Vous parlez des déclarations des droits de l'homme. C'est-à-dire le contrôle constitutionnel par rapport à la déclaration des droits de l'homme. C'est pas nouveau, hein. Ça date notamment de la constitution de la 4e République. C'était déjà la constitution de la 4e République. Non, mais le préambule, c'est le préambule de 46 qui est rappelé dans la Constitution de 58. Excusez-moi, c'est des petits détails techniques. Mais la réalité, c'est celle-là. Donc, ça fait longtemps. Mais peu importe la question. Et là aussi, ça permet également d'avoir aussi une garantie parce que c'est contrôlé par le Conseil constitutionnel, c'est un texte qui garantit que les projets de loi, les lois, sont conformes au préambule de la Constitution de 46, qui est repris dans la Constitution de 56. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, le Conseil constitutionnel vérifie. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, la souveraineté des parlementaires, je suis absolument d'accord. Mais, comme le disait Montesquieu, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête. Et ça, c'est absolument fondamental pour notre démocratie. Ça ne veut pas dire que ce soit les juges qui font la loi, mais les juges, ils appliquent la loi. Ils sont les gardiens des promesses de la démocratie. Ce n'est pas eux qui font la loi. Mais ils disent, vous l'avez faite la loi, vous l'avez faite, bon, maintenant, nous, on peut respecter la. Et c'est ça, Et donc, que ça soit la déclaration. Alors, évidemment, ça s'est transformé par le biais d'une QPC, qui est un élément, c'est Jean-Louis Debray, qui a été un élément absolument essentiel. C'est fondamental, la QPC. Ça permet aux citoyens de dire, parce que avant, le seul contrôle constitutionnalité, c'était après le vote des lois. Il fallait que les députés ou les sénateurs, un certain nombre, saisissent le Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est de dire, même si ça n'a pas été saisi à son temps, si on n'a pas contrôlé la constitutionnalité après le vote de la loi, à partir de ce moment-là, on peut faire quoi? Et c'est ça les droits des gens. Et c'est ça la garantie des gens. Mais en quoi ça vous inquiète?
Parce qu'à un moment donné, donc, les lois, y compris de 1824, et à un moment donné, dans un procès,
oui.
Il va y avoir
oui. En fait, pour qui, oui. Et oui, parce que ça ne correspond plus, parce que ça ne fonctionne plus, parce que c'est plus.
On va dans les mutualités, dans un grand projet.
Pas du tout, parce que cette modification, ça va pas s'appliquer seulement à ce monsieur-là, elle va s'appliquer à tout le monde. Et si vous voulez, il n'est pas possible, je crois qu'on. Heureusement, on est dans une démocratie qui avance. Il y a des choses où on n'est pas bon. C'est comme ça. Et franchement, la France, on n'est pas mauvais. Hein. Mais il y a des choses où on a. Et ça permet de faire évoluer les choses petit à petit.
Je voudrais compléter ce que disait Bruno Catala sur la place et le rôle du juge. Non, mais si, parce que ça interroge cette question-là. Quand vous parlez effectivement de contrôle de constitutionnalité et des différents recours qui sont assortis à ça, si la loi était mieux faite, et là vous pourriez en parler avec Jean-Louis Debré qui raconte ça très bien quand il était au Conseil constitutionnel, si la loi, les lois étaient mieux faites, si elles étaient mieux préparées, mieux ficelées, Bruno Catala peut vous donner un ordre d'idée sur l'importance de pouvoir avoir des recours, y compris des recours en matière de constitutionnalité, parce que les lois sont mal faites. La Cour de cassation, pendant la Chambre sociale, dont Bruno était le président pendant 4 ans, elle rend 5000 décisions par an. La Cour suprême, rien que la Chambre sociale, hein, total, la Cour de casse, c'est plus de 30 000 par an décisions. 30 000, vous imaginez. La Cour suprême aux États-Unis, les lois sont peut-être faites différemment, elles savent être un peu différentes, 120 décisions. Donc, ça permet de juger sur la difficulté juridique dans laquelle on est. Donc, il y a un vrai sujet, vous avez sûrement raison, mais on est quand même dans un environnement qui est à la fois mal fichu et dans un contexte dans lequel on a choisi d'être.
Peut-être pour préciser la question, parce que c'est une question qui est très présente dans le débat public aujourd'hui, c'est-à-dire la question, pas sur un plan juridique uniquement, mais sur un plan très politique. Donc, les États qui ont ratifié les conventions de la CEDH l'ont fait à un moment donné. Certains, aujourd'hui, pointent du doigt le fait que, dans des contextes, par exemple, d'insécurité, je pense notamment au renvoi dans leurs États d'origine de personnes de nationalité non française qui commettent des crimes sur le sol français et que la CEDH nous empêche, c'est le débat, hein, nous empêcherait de renvoyer chez eux. Ça a fait beaucoup de bruit ces derniers mois et ces dernières années. Et la question qui est posée dans le débat public, c'est, il y en a peut-être deux. La France peut-elle peut-être influencer au niveau de la CEDH une forme de souplesse ou d'adaptabilité des principes à un contexte sécuritaire un peu différent aujourd'hui? Donc, est-ce que la France a une capacité d'influence? Est-ce que ça peut encore évoluer, ce droit-là, ou pas? Et d'autres personnes davantage extrêmes dans leur raisonnement diraient, peut-on sortir de la Convention? Carrément.
C'est absolument possible. De ce côté-là, tout est possible. Les seuls qui sont sortis de la Convention, à ma connaissance aujourd'hui, sont les Russes, parce qu'ils ont été, on les a planqués dehors, et de l'autre côté, les Anglais, voilà. Non, pas les Anglais, non, les Anglais, pas encore. Non, les Anglais, ils voudraient bien, mais ils sont toujours... Non, les Anglais sont sortis de la Cour de justice de l'Union, mais pas la Cour. Non, ce que je crois, c'est que par rapport à ces questions qui sont des questions politiques, il appartient partout, tout le temps, au gouvernement des différents gouvernements d'essayer de faire évoluer les positions. Je veux dire par là, quand ils vont plaider devant la CEDH, parce qu'ils vont plaider, hein, ce sont les gouvernements qui vont plaider devant la CEDH. C'est à eux de faire évoluer, parce que le texte en lui-même ne bougera pas. Ce qui va bouger, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que les juges peuvent faire évoluer leur jurisprudence. Et ça dépend de la possibilité de conviction des États, mais pas seulement des États. C'est aussi c'est pas seulement l'État qui plaide, c'est aussi l'ensemble des États qui peuvent aussi faire en sorte que ils essayent de convaincre les juges qu'il faut faire évoluer notre position sur tel ou tel. Je ne sais pas s'il faut faire évoluer notre position sur toutes ces questions d'asile, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, et ce que je dis souvent, c'est que si les Français n'ont pas envie d'avoir des conventions, ben, ils n'ont qu'à pas les signer. Les gouvernements, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu et de l'inverse, ils ont signé toutes les conventions. C'est la France qui a signé le plus de conventions. Parce que pour la raison simple qui est derrière, mais qui est une raison qui est parfois, c'est qu'ils ne croient pas au juridique. Ils croient aux politiques. Donc ils pensent qu'à la fin, bon, à la fin on se débrouillera. C'est nous qui nous débrouillerons. C'est des politiques, peut-être que je me trompe.
Pas totalement.
Et ils disent, oh, le juge, ils vont s'occuper du pénal. Là. Mais ce n'est pas des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est nous, les politiques, qui les réglons. Ils ne croient pas. À la différence des Anglais, à la différence de tous les pays un peu développés, qui croient que le droit et la justice, c'est au cœur des enjeux aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de lawfare, c'est-à-dire de la guerre pour le droit. De guerre pour le droit. Quand les Chinois, excusez-moi, mais je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais quand les Chinois, ils font les routes de la soie, quel est le plus important? Bon, c'est les ports, etc. Mais c'est l'écartement des rails. C'est la norme sur l'écartement des rails. Parce que là, ils imposent eux-mêmes la norme, et à partir de là, ils vont tout développer par derrière et ils vont tout nous imposer. Donc, la question, et notamment tout ce qui est, tout ce qu'on appelle la conformité, comment on dit ça en anglais, la compliance. La compliance est formidable, c'est-à-dire que ce sont des normes qui nous sont imposées et qu'on va. Ça, c'est des enjeux fondamentaux. Mais personne, ça n'intéresse absolument personne. Mais la différence, c'est que si un chef d'entreprise connaît la loi, connaît le mode de fonctionnement des juridictions, il a un avantage concurrentiel considérable par rapport. Et c'est pour ça qu'il y a un combat. Et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, à part la guerre, qui est essentielle, c'est que derrière, les uns et les autres vont essayer de récupérer des parts de marché, et des parts de marché de droit, du droit. C'est-à-dire qu'ils voudraient placer leur système de common law, de machin. Je croise un juge américain il y a 5-6 ans ou 10 ans. Je croise un juge américain. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, je suis allé en Macédoine. Bon, je vais en Macédoine. C'est joli. Enfin, bon. Ah, il dit, mais ça fait nous 15 ans, 20 ans qu'on est en train de leur apprendre ce qu'est la common law. Ils étaient dans un système de civil law. Notre système de civil law. Et ça, mais ils ne le font pas parce que ils ne le font pas par plaisir, hein. Ils le font parce qu'ils croient que ça leur va leur donner un avantage considérable. Donc, la question du droit et de la justice, alors je me suis un peu éloigné de votre idée, excusez-moi, elle est absolument fondamentale aujourd'hui et dans les démocraties. Des conventions de ce style-là, ça fait progresser également la liberté, non seulement chez nous, mais chez nos voisins européens. Voilà, excusez-moi.
Vincent, vous voulez peut-être réagir sur cette question?
Non, enfin, un complément par rapport à la question de monsieur qui réévoquait le quinquennat. Je ne suis pas certain que ça soit le quinquennat qui ait déséquilibré les institutions. Je suis pas certain parce que il faut fermer les yeux et se représenter au moment où nous sommes notre société au moment où auquel on est rendu notre société et à la question de la vitesse que j'évoquais tout à l'heure avec un septennat. Je suis pas certain que ça fonctionne. Non, je pense que ce qui a déséquilibré c'est une question des élections présidentielles et des élections législatives conjointes. Là, on a fermé une respiration démocratique. Je comprends tout à fait pourquoi ça a été fait, mais on a fermé une respiration. Et là, je pense que c'est effectivement une question à laquelle il faut réfléchir et qui pourrait faire l'objet d'un travail institutionnel. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le second point, Alexandre a bien voulu évoquer la question de la loi. Je crois qu'il y a la loi et puis il y a ceux qui la font. Moi, tout le monde osait au mois de juin, fin juin, en disant que c'était le retour du Parlement, ça va être formidable. On le voit au quotidien, c'est assez formidable, effectivement. Moi, ce que je constate, c'est qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, en dehors d'une personnalité clairement affichée et peut-être de quelques autres que je n'ai pas forcément repérés, il n'y a aucun candidat à l'élection présidentielle de 2027 qui siège. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose à tout point de vue. Ça veut dire quelque chose dans le fonctionnement de l'Assemblée, ça veut dire quelque chose dans les messages politiques qui sont adressés, ça veut dire quelque chose dans la force de ces messages, etc. etc. Et donc là, on en revient à cet autre point, voilà, qui était le mien tout à l'heure. Donc, j'ai évoqué la rapidité juste avant, et là, je parle de la, à la fois de la lisibilité et des femmes et des hommes qui font nos institutions. Oui, le cumul des mandats est certainement, l'interdiction du cumul des mandats est certainement pour partie une erreur. Mais le problème, c'est, voilà, rien n'est parfait, tout ne s'est pas construit comme ça en un jour. Il y a un système de balancier, il faut retravailler aussi sur le cumul des mandats, mais un cumul des mandats raisonné.
Respecte le voir, M. Cadella, voudriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur le lien existant entre l'écartement de Ragnier et du pouvoir, que pour moi, c'est plus une question de force. Et je me souviens, je n'avais pas le problème de manière parfaite, d'un mot de Charles Tétier. C'était le canon de 75 qui montrait la surface à l'intérieur de laquelle et c'est ce que le droit qui réglait l'entrée au phénomène 65. Alors, est-ce que le rail n'est pas un nouveau phénomène 65?
Merci. Ce que je voulais dire par là, c'est que, et notamment autour de cette idée de compliance qui nous est imposée par l'extérieur et dont on n'a pas idée, me semble-t-il, enfin, beaucoup de gens n'ont pas idée que c'est ça qui petit à petit s'impose à nous dans notre quotidien, la manière dont ce sont les règles du droit, des règlements, hein, qui vont nous imposer à nous de fonctionner de telle ou telle manière. Et ça, on parle beaucoup de la CEDH, de mais ça, c'est le quotidien. C'est tous les jours. C'est comment ça se passe dans les entreprises. Comment ça se... Et quand je reviens sur la rail, c'est l'idée que quand les pays ont du commerce avec la Chine, avec ces nouvelles routes de la soie, quand on leur dit, bah, on va construire un train pour vous, on va... la règle, c'est que les cartes manches... Je ne connais pas les détails du tout. Mais je sais qu'en tout cas, il est plus petit, je crois. Et donc, ça, c'est une norme qui s'impose petit à petit. Donc, les wagons vont être chinois. Donc, la manière de... Tout va aller derrière. Et ça, on voit bien comment la règle de droit, la règle de... un petit règlement de droit, a des conséquences absolument considérables sur les facteurs.
Permettez-moi de faire remarquer très grossièrement qu'il existe une union internationale des chemins de fer et que l'écartement plus fréquent c'est 1,435, c'est d'origine anglaise, c'est pas bien gagne du terrain, tout au moins si on en croit l'hebdomadaire l'exercice.
Alors, c'est vrai que je ne suis pas.
Quelle citation ?
Je suis assez féropathe, mais moi, je suis plutôt sur les gares. J'aime bien les gares. C'est dans la vie de Rani. Mais vous avez sans doute raison. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, c'est par ce biais-là qu'on nous impose. Bien entendu, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une véritable lutte. Alors, on appelle ça maintenant le lawfare, c'est la guerre par le droit.
Il y a plusieurs questions, on va les prendre et après on ne s'arrête pas.
Un petit peu éloigné de l'agriculteur, mais je comprends parfaitement. J'ai repris pour les exposer, les idées, la plupart des questions. Donc, c'est monsieur aussi, la position de base de son parti, qui va vers le carreau. Il prend des ans, donc là, on résultera, on peut déboucher sur des choses qui sont encore plus profitables pour nous. Par conséquent, des précautions, des réflexions autour de ces problèmes institutifs. Je suis d'accord également avec M. quand on dit que tout ça, ce sont des problèmes de riches. On n'est pas si nombreux sur Terre à bénéficier de véritables institutions démocratiques. Je peux être positif sur cette de bénéficier de tout un ensemble de bienfaits. Donner des cours par notre pays, c'est un autre sujet. En tout cas, ce risque de chaos, c'est une autre puissance peut-être des bienfaits. Ça peut nous conduire à des choses pires, bien pires, ce que peut-être. On arrive maintenant à la question qui peut se dire. Ne pensez-vous pas que, au-delà des problèmes d'institution qui sont finalement des outils, ce sont des outils. Nous ne vivons pas aujourd'hui une époque où, quelque part, ce sont les idées qui pêchent. Ce sont les idées qui pêchent. Il s'est passé la chute du mur de Berlin, la chute de sociétés qui étaient apparues pendant des dizaines d'années, quand un rêve aussi pour notamment des couches populaires de population. C'est un grand vide, je pense qu'il n'est pas encore remis. C'est loin de s'arrêter au remis. Et c'est un vide, finalement, qui s'est fait au niveau des idées. Aujourd'hui, vous êtes en politique, mais tout raisonnement parle de en même temps, par exemple. En même temps, c'est exactement l'inverse. Une vision des vision de pensée, une vision de bateau, mais idéologique, dont on peut toujours dire qu'elle a. Des ressorts imposants. On peut donner des idéologies, mais néanmoins, dont l'absence est elle-même peut-être également malgré. Et de ce fait, aujourd'hui, la réflexion serait de dire qu'il y a une absence de pensée idéologique profonde, adaptée à notre époque, parce que notre époque, notamment les réseaux sociaux, et c'est la même chose, dans l'État, a créé une nouveauté théorique, tout ça, une nouveauté théorique. Et qu'il n'y a pas des idées en face pour utiliser la machine. Il y a la puissance, mais il n'y a pas la capacité de contrôle de cette puissance. Et cette capacité de contrôle de cette puissance peut être encore réalisée dans des idées nouvelles adaptées à notre époque, dont on peut penser aujourd'hui qu'il y a plus de 40 ans.
Merci. Voilà. Je voudrais répondre assez rapidement, s'il n'y a pas d'autres questions.
Moi, j'en ai une relativement rapide. Vous avez dit dans votre exposé qu'il fallait faire avec les gens. Je ne peux que convenir que c'est une excellente idée, mais ma question, c'est comment. On a parlé de la possibilité du CESE, mais le CESE, c'est la société civile organisée. Les Gilets jaunes étaient-ils organisés? Et comment entend-on les Gilets jaunes? On peut aussi parler, pour notre société, du pouvoir des médias. Et on n'a pas dit ce mot à aucun moment. Pour moi, les médias, l'opinion publique, comment prend-on en compte cette chose-là et comment fait-on pour avoir une opinion publique éclairée? Merci. Là, ce n'est pas facile.
L'opinion publique éclairée, Alexandre répondra.
Peut-être.
Merci pour cette question. Très, très intéressante. Merci beaucoup. D'abord, les Gilets jaunes, l'organisation. Le CESE, c'est l'un des moyens. C'est pas le moyen, c'est pas vraiment. C'est un instrument parmi d'autres, un petit instrument, mais qui est un petit instrument de respiration. Voilà, point. Maintenant, voilà. Les Gilets jaunes, question très intéressante. Non, les Gilets jaunes n'étaient pas organisés. Ils n'étaient pas organisés. Et ils ne le sont toujours pas. Et ils ne le seront jamais. Voilà. Maintenant, les Gilets jaunes, mais on a déjà connu ça. Alors, on a déjà connu ça, sauf que par le passé, vous aviez des organisations qui étaient en capacité, au bout de deux semaines, trois semaines, oui, de dire « il faut savoir cesser une grève ». Et donc, il y avait des gens qui allaient sur les ronds-points, ce n'était pas les ronds-points, c'était autre chose, et qui disaient « bon, écoute, ça fait trois semaines, là ça y est, je crois qu'ils ont compris là-haut, hein, les salauds de Paris, ils ont compris, maintenant on va rentrer chez nous hein, ». Voilà. Et les gens rentraient chez nous. Voilà. Là, c'est justement parce qu'il y a un effondrement des structures politiques, des structures partisanes, qu'il n'y a pas eu capacité de leur dire, ils sont bah écoute, pour rentrer chez toi. Il n'y a pas eu ça. Mais comme il n'y avait pas eu auparavant, la remontée d'informations sur laquelle, attention là, ça commence à remuer.
Oui, il faut faire quelque chose.
C'est-à-dire que quand le Parti socialiste, le RPR et le Parti communiste avaient par canton de l'époque un responsable, par canton de l'époque, ça faisait déjà, des milliers de gens qui étaient en capacité de descendre et remonter l'information et de dire aux gens sur les ronds-points, même si ce n'était pas le ronds-point, il est temps de rentrer. Et tout ça, ça amène aux idées. Effectivement, il n'y a plus de grandes idées. Alors, la nature horreur du vide, hein, ça, un moment ou un autre, d'ailleurs, on voit bien, c'est en train de commencer à se reformater. Et bien entendu, il y a une nécessité absolue de réintroduire le débat d'idées. Le en même temps que vous évoquiez, mais le en même temps, qui a répondu à. Je pense qu'il est. Il était le bienvenu parce qu'il consacrait la fin qui était mourante. Maintenant, il faut que le débat d'idées revienne parce que s'il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas de récit. S'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de récit national.
Non, mais c'est le problème de la perspective. C'est-à-dire que la grande difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est vraiment cette espèce de brouillage de messages, parce qu'on ne sait pas où tout ça nous mène. Bruno le disait tout à l'heure sur les chiffres, sur les craintes des Français, mais ces craintes-là, on peut les comprendre. Quelle est la perspective dans quoi on veut nous emmener à 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans? C'est quoi le projet français? Très sincèrement, si vous le savez, moi je ne le sais pas. Ça fait longtemps que je le cherche et j'aimerais bien le savoir. Je pense qu'il y a eu des époques où, tant qu'on était porté par le progrès, par la croissance, par un avenir potentiellement meilleur, par une construction européenne qui était prometteuse, par voilà, le sentiment que l'Occident était encore devant et l'Europe. Voilà. Là, on a le sentiment aujourd'hui qu'on est plus 450 ou 430 millions sur 8 milliards, que nos indicateurs sont tous au rouge. Dans ce cadre-là, c'est compliqué, effectivement, de faire naître des idées sur lesquelles, en plus, on peut s'accrocher. C'est possible. Ça reste un vrai sujet. Après, il y a le rôle du politique. Pour l'instant, le politique, il a le don de nous jeter en pâture des sujets qui passent notre temps à nous diviser. Et ça, pardon, mais on ne bâtit pas une nation en divisant son peuple. Vous ferez ce que vous voulez, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il faudrait que le politique soit un peu plus responsable de ce point de vue-là. Il faudrait aussi que la façon de faire de la politique, en tout cas, quand on est aux affaires, quand on est à l'opposition, on fait n'importe quoi, de toute façon, c'est classique. Enfin, pas seulement d'ailleurs, heureusement, mais quand même, il y a souvent beaucoup d'instrumentalisation, de bruit et de fureur pour certains, qui est établi en modèle politique véritable, beaucoup d'utilisation, de démarches clientélistes et autres. Mais quand on est aux affaires, on devrait avoir un souci d'exigence qui est de parler vrai, de mettre des mots justes sur les choses. Ça changerait tout aussi. Ça changerait tout. Être capable d'aller à la télévision, j'écoutais Gabriel Attal parler hier matin ou ce matin sur Europe 1, sur France Inter. Bon, cette autosatisfaction sur les moyens mis pour la justice française, dont tout va bien, tout ça en justifiant, en venant s'expliquer parce qu'il y a une magistrate qui est morte en audience à Nanterre il y a quelques semaines, ça passe pas, quoi. Les gens, si vous voulez, ils arrivent pas à accrocher. Et à un moment donné, il faut dire les choses justes. Il faut être sincère. Il faut parler cash. Il faut dire, voilà, bah c'est comme ça. Voilà. Et on serait plus, à mon avis, capable aujourd'hui de rentrer dans la mêlée, en tout cas une majorité d'entre nous, certainement jamais la totalité, si on était capable de parler vrai. Mais parler vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, autant il faut des idées, autant il faut bannir les idéologies. L'approche idéologue qui consiste à faire de la politique sans tenir compte des réalités, ça c'est dramatique. C'est ça aussi qui fait peur aux gens. Quand vous projetez à horizon 2035 et qu'on vous a dit que l'idéologie bruxelloise a imposé la fin du moteur thermique sur le continent européen, en tout cas dans sa commercialisation, ça, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout fondé sur un projet rationnel, pragmatique, dont on sait comment on va faire. On ne sait pas comment on va faire. Et tout le monde perçoit que c'est un mensonge, c'est impossible à tenir. Et quand vous parlez avec les politiques en coulisses, vous dites, oh, de toute façon, on verra, il y aura une chose de revoyure, c'est-à-dire Thierry Breton qui l'a mis, etc. Donc toute cette manière de faire là, elle est dans un contexte de crise, de peur, d'angoisse, d'incertitude et de difficulté, elle est mortifère. Donc les premiers qui pourront restaurer, si je peux dire, un début de quelque chose, ce sont les hommes et les femmes politiques. S'ils ne le font pas, là encore, moi je dis, à un moment donné, on aura ce qu'on vient. Ils seront responsables et coupables.
Tout à fait, oui.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a dépassé l'heure de 5 minutes. Merci pour votre attention. Merci à nos intervenants. Et merci encore une fois à Minerve pour cette association fructueuse, je l'espère.
Merci.
Bien,
bonsoir.
Moi, j'ai été inscrit pour l'artillerie volontaire, mais il n'y avait pas quelque chose de très bien de rendre compte, c'est qu'il y a un spam.
Ça arrive, ça, oui.
Ouais, donc, je parviendrai, donc j'ai essayé de collecter pour vous m'excuser, mais bon.
Thierry, pour la réunion de la scène d'avant-hier. Ah oui, d'accord. Ok, oui.
J'étais
à oui. Pas de problème.
Non, pas dans un débat politique.
Bah, exactement.
Avec de l'ombre.
Ancienne ou plus ancien d'ailleurs.
Je suis directrice des études chez Synopia. Voilà. C'est vrai? Tout à fait. Ben, en fait, voilà, on a.
Oui, j'attendais.
Ça a été compliqué, mais on est. Attends.
Merci beaucoup.
Merci. À bientôt.
Oui, déjà, quoi qu'il arrive.
Harold.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ravi de cette rencontre en vrai. Ah bah ouais, carrément. Oui, bien sûr. Ça vous intéresse déjà? Oui.
C'est des problématiques qui me tiennent à cœur, je ne suis pas forcément ouais. Expert.
Et vous connaissez ça vite. Ciao. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, nous, je crois que votre adhésion est bien prise. Il me semble, voilà. Oui, bah, c'est, ça n'a pas d'importance. Quand vous voulez. En même temps, on va organiser une réunion de groupe choc, déjà, à laquelle vous êtes censé, bien évidemment. Est-ce que vous avez des créneaux où vous êtes totalement indisponible? C'est quoi vous?
Là, je vais être libre tout le mois de décembre.
Je pense que le choix, à partir de quelle heure, c'est ça?
Trois semaines.
C'est très bien. Alors, les prochains postes sont peut-être plus... Faut en profiter.
Oui. Oui.
D'accord.
Il y aura une. Ouais, très bien, super.
Je vais. J'ai pas été hyper réactive, mais c'est vrai qu'il voit de me rendre.
C'était question de m'envoyer à Bordeaux à un moment donné. Ouais, il était assez
Donc j'ai été à quelques
énormes avec le Sénat, voilà. Bah, c'était quand même pas trop mal. Et avant, je suis présenté chez Chirac en 17 ans, et j'ai été à trois bureaux de la vie de 30 ans. Et j'ai participé à la statistique des gens dont on est parti. On vend aussi.
Ah ouais, non, mais
le poids, on a discuté, il fallait lutter avant, c'était un préambule. Et on nous dit que le dos est écart.
Et peut-être un élément.
En vrai, je
Allez, mon colonel, prenez la soupe, voilà. Allez, salut. Et donc,
il y a eu un temps. À la... Merci à vous. Merci.
D'accord. Et on n'a pas, de hiérarchie, on n'a plus de lien. Et en réalité.
Mais les politiques. C'est une hiérarchie. Et ils ne le font pas. Quand on voit la France, le gouvernement français.
C'est-à-dire. C'est
une organisation par la Suisse. Il est des mépris.
J'avais l'informatique pour tous de Charles Chavert, moi qui l'ai écrit, j'ai découvert, parce qu'entre autres, j'avais les moyens à côté de Balladur pour faire tout ça. Et ce que je veux dire, c'est en réalité, on est quand même dans un élément qui dérive. Je vois que c'est quelque chose pour être plus long. Pékin, palais du peuple, a présenté des bouts de la soirée. Et je vais vous avant que je ne vois pas les potes. Ça vous dit qu'ils sont en train de mise en œuvre par Poutine aujourd'hui avec ses. Allez, cher, on se reverra. Enfin,